вчера, так сказать, поставили некоторое количество вех, et обозначили тематику.
И on a fini le séminaire avec une citation, la première, en fait, citation du texte d'introduction qui a été mis.
И мы начали с вами цитировать введение в курс лекции кожевнику.
En leçon dans leur ensemble.
То есть тот курс лекции, который он прочел в Париже.
Donc je vous rappelle que c'est un texte tardif, un texte de 1939.
Я хочу вам напомнить, что эти тексты, они, так сказать, 34 года.
Voilà. Donc c'est un texte qui est synthétique dans la mesure où il rassemble, puisqu'il vient à la fin de cet ensemble de leçons, il rassemble d'une certaine façon toute la pensée de Kojève s'agissant du désir.
Это как бы у нас текст, который подводит черту под этим циклом лекций, которые были прочитаны Кожевником.
Alors plutôt que de relire tout le passage qu'on a lu à la fin du séminaire d'hier, je me permets simplement de relire la dernière phrase.
Я позволю себе, так сказать, не цитировать полностью. Тот отрывок, который я собирался процитировать, а буквально последнюю фразу, потому что вот эта книга Кожевникова, она существует, она есть на русском языке.
Les deux dernières phrases de ce qui est dans la version française. Deuxième paragraphe.
Две последние фразы — это второй параграф в французском варианте этих лекций.
Alors, il risque, je veux me référer à plusieurs reprises à ce texte d'introduction.
И я неоднократно в ходе своей лекции буду возвращаться вот к этому введению, к этому тексту.
Ce qui risque de créer certaines difficultés ou certains flottements, parce que les paragraphes français ne correspondent pas aux paragraphes de la traduction russe.
И здесь тут возможно некоторые, так сказать, несоответствие, потому что в переводе вот этот параграф французский, donc, в monsieur, оригинале вернее, он не соответствует русскому переводу.
Donc monsieur Rovin va devoir scanner très vite le
то есть мне придется, так сказать, по мере моих скромных возможностей попытаться перевести сходу вот то, что хотел сказать Александр Васильевич Кожевников.
Alors voilà, je lis le passage en question.
Значит, я сейчас прочту вот этот вот
qui est cette première conclusion à laquelle arrive Kojève.
Это, собственно, первый вывод или первое заключение, к которому приходит Кожевник.
C'est dans et par, ou mieux encore, en tant que son désir,
когда человек воспринимает желание как собственное желание, как исходящее от него самого,
que l'homme se constitue et se révèle.
Именно тогда человек осознает себя личностью, осознает собственное «я».
À soi-même et aux autres.
И таким образом становится самим собой перед, для себя и для окружающих, для других.
Comme un moi, comme le moi, comme un moi.
То есть он таким образом утверждает свое собственное «я», осознает себя действующим субъектом.
Comme le moi essentiellement différent du et radicalement opposé à non-moi, pardon, radicalement opposé au non-moi.
И таким образом он сознает себя как я в противостоянии другим эго, другим я.
Le moi humain est le moi d'un ou du désir.
То есть здесь просматривается различие между человеческим «я» и «я», которое присуще, так сказать, субъекту желания.
Voilà. Donc, à partir de là, toute la question est de savoir quelle est la nature de ce désir en question.
И вот когда мы это поняли, тут самое главное затем понять, в чем заключается смысл вот этого желания.
Alors, permettez-moi simplement de vous donner le mot que Hegel utilise en allemand.
Я позволю себе использовать термин, который Гегель, немецкий термин, который использует Гегель.
Et qui est traduit par le mot de désir en français.
Désir. Который переводится на французский как желание.
Et le mot allemand c'est die Begierde.
Немецкое слово «die Begierde».
Alors, c'est un mot important parce qu'on va voir qu'une des spécificités de cette philosophie française, c'est de traduire un ensemble de mots qui sont bien distingués en allemand par le même mot français, le mot désir.
Потому что это очень важно, потому что во французской философии, так сказать, существует тенденция переводить самые разные оттенки, которые выражаются, которые существуют в немецких текстах, одним словом «желание».
Ce qui permet d'entretenir parfois un flou artistique.
Très... Et поэтому иногда у нас получается из-за этого путаница.
Très français.
Это, собственно, достаточно типично для французов.
Et qui donne des résultats intéressants.
Которые иногда приходят к интересным результатам, дают, знакомят читателей с интересными результатами.
Mais qui permet d'une façon parfois problématique.
Но при этом иногда
de rassembler ou de mettre en quelque sorte dans le même panier Hegel, Freud.
Иногда при этом они, так сказать, складывают в одну корзину как бы и Фрейда, и Гегеля.
Et Husserl lui-même aussi.
Husserl.
Alors, le terme de Begierde en allemand peut signifier lui-même différentes choses.
Значит, вот немецкий термин, который переводится на французский как «désir» или «желание», на самом деле достаточно сложная вещь, имеет много смыслов.
En russe, le terme «désir» c'est quoi? Comment vous traduisez?
«Желание». C'est le «désir».
C'est le «désir». Mais le «désir»... Alors, le terme «Begierde» en allemand peut signifier désir au sens d'un désir très fort, un désir ardent.
Значит, в немецком языке этот термин имеет совершенно определенную коннотацию. Это очень сильное желание. Сильное желание. Страстное желание.
Dans ce cas, il est synonyme du verbe, enfin désirer est synonyme du verbe allemand verlangen. Verlangen.
Verlangen.
Voilà. Verlangen qui signifie justement, enfin, désirer au sens, un désir qui peut être un désir érotique, mais qui est plus largement une aspiration.
То есть, это скорее устремление, то есть, нечто более сильное, чем просто желание, стремление.
Donc le terme de Begierde au sens de Verlangen peut être très proche de cet autre terme allemand que vous connaissez peut-être, qui est en tous les cas en français proprement intraduisible, qui est celui de Sehnsucht.
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 И поэтому это приближается к другому немецкому термину, Sehnsucht, который, может быть, вам знаком. Именно в этом значении. Да. Как страстное стремление к чему-то.
Bon, mais un autre sens de Begierde en allemand est un sens peut-être plus animal. Et c'est par là qu'on va commencer avec Hegel.
И еще есть один смысл, который заложен в этом немецком термине. Он, так сказать, имеет скорее животное значение.
Qui est celui d'une convoitise, d'un besoin extrême.
Это ощущать... желание сексуальное, желание, очень сильное сексуальное желание.
Et c'est en sens-là, surtout dans le sens...
Страстно желать чего-то.
Dans le sens d'un désir de consommation, d'assimilation, de destruction.
Это может быть и желание, так сказать, обладание, желание, так сказать, получение чего-то.
C'est dans ce sens-là qu'Hegel... entend le terme de Begierde.
И термин Begierden у Гегеля употребляется именно в этом значении. Не просто желание, а стремление, сильное стремление к чему-то.
Mais comment on va le voir, c'est le désir entendu de cette façon.
Но если мы будем рассматривать желание именно с этой точки зрения,
qui l'a précisément mené à une impasse.
Une impasse
Impasse,
oui.
Но в таком случае, если мы будем рассматривать с этой точки зрения то, желание, то мы зайдем в тупик, конечно, в счете.
Et cette impasse, conformément au mouvement de la phénoménologie de l'esprit lui-même,
И в соответствии с движением феноменологии духа по Гегелю, да, вот этот вот тупик
va mener à une reconfiguration du désir,
приводит к переформатированию желания.
Mais sous un autre nom.
И оно возникает вновь, но под другим именем, под другим названием.
Sous le nom de ce Hegel appelle la reconnaissance.
La reconnaissance.
La reconnaissance. Dans le sens de se reconnaître.
Признание. Это то, что, так сказать, Гегель называет термином, употребляет термин признание.
Donc,
взаимное признание.
Le mouvement de cette dialectique du désir.
То есть диалектика желания.
Est un mouvement qui va du désir.
Движение идет от желания.
Dans un sens au départ très très brut, quasi animal.
Так сказать, в почти, так сказать, животном смысле этого слова.
À ce que Hegel pose comme sa vérité.
К тому, что Гегель считает, так сказать, целью желания.
À savoir la reconnaissance.
Признание.
Autrement dit, tout désir pour.
То есть любое, иными словами.
Tout désir pour.
Любое желание.
Pour Hegel est désir de reconnaissance.
Это желание познания, желание познания, узнавания.
Et c'est ce mouvement qui va nous amener à la définition que.
И именно это движение, которое приводит нас к определению.
Que Hegel fait du désir et que Kojève reprend.
Гегеля, который используется Кожевниковым.
Et selon laquelle le désir n'est pas, au bout du compte, désir d'une chose particulière.
Означает, что желание не означает желание обладать некой конкретной вещью.
Que le désir proprement entendu n'est pas un désir d'objet.
Что желание не имеет объектной природы.
Mais que le désir proprement entendu est un désir de sujet.
Имеет скорее субъектную природу.
C'est-à-dire un désir d'un désir.
То есть на самом деле это желание желания.
Et c'est cette définition du désir qui va nous occuper jusqu'à la fin de la semaine prochaine.
Мы будем рассматривать до конца следующей недели. То есть желание, желание как желание желания.
Définition selon laquelle, au bout du compte, le désir, c'est toujours le désir de l'autre.
То есть это желание другого в конечном счете всегда.
C'est le désir, comme le dit Kojève, le désir du désir de l'autre.
То есть желание желания другого, используя терминологию Кожевникова.
Et c'est une définition qu'on va retrouver littéralement chez Lacan.
И вот это определение в буквальном виде встречает Лакана.
Lacan qui lui-même va la comprendre de deux façons différentes.
Который понимает это двояко.
Et c'est une définition qu'on retrouve aussi chez Levinas.
И у Левинаса тоже это определение встречается.
Mais qu'il interprète différemment.
Но он, так сказать, интерпретирует его иначе.
Voilà. Parce qu'au bout du compte, le désir sera le désir de l'autre avec un A majuscule.
Потому что это желание другого, так сказать, с большой буквы.
Donc, pour Levinas, l'autre, ça sera l'autre personne.
Для Левинаса другой – это другой человек, другое лицо.
Qui est toujours cette altérité radicale et absolue.
То есть это абсолютная непохожесть, абсолютное противопоставление собственному «я».
Alors,
то, что противостоит собственному «я», alors, другой.
Alors que pour Lacan, cette altérité radicale ou absolue,
ça... А для Лакана вот эта вот непохожесть – это различие абсолютное.
Sera cet objet introuvable.
Является неким недостижимым объектом.
Qu'il appelle le phallus.
Который он называет фаллосом.
Alors, il faut savoir comment on va arbitrer entre l'autre lévinassien et le phallus lacanien.
Поэтому мы попытаемся, так сказать, найти золотую середину между этими двумя определениями.
Alors, j'en reviens à Kojève maintenant et
теперь я хочу вернуться к Кожевникову.
On va tâcher de suivre son interprétation de cette dialectique du désir.
И попытаться, так сказать, понять его интерпретацию диалектики желания.
Alors, le désir est d'un côté.
То есть, с одной стороны, желание.
Un désir, comme je le disais tout à l'heure, un désir de consommation, un désir biologique.
Это биологическое желание, желание, так сказать, обладание, желание потребления чего-то.
Mais la réalité humaine...
В то же самое время существует человеческая реальность.
Donc, encore une fois, cette notion de réalité humaine qui lui vient à Kojève de la traduction de Corbin du Dasein heideggerien.
И я еще раз хочу сказать, что это неудачный перевод человеческой реальности, да? Дазайна Гегеля,
donc,
термина немецкого дазайна.
Donc vous voyez comment Kojève, de façon, de façon non orthodoxe, identifie complètement l'existence qu'on traduit par réalité humaine et la conscience au sens Hegel.
Здесь существует противоречие между желанием и сознанием. В том смысле, как его понимал Гегель.
Ce que Hegel lui-même n'aurait pas accepté.
Гегель бы вот это, например, так сказать, такое определение не принял.
Voilà. Mais alors, tout le propos de Kojève est de dire que la réalité humaine.
Поэтому Кожевников говорит, что человеческая реальность.
Ne se laisse pas réduire à la vie au sens biologique.
Не сводится к жизни, к существованию, к биологическому значению этого слова.
La réalité humaine excède, transcende la vie au sens de la survie, si vous voulez.
Человеческая жизнь выходит за рамки трансцендента по отношению к жизни в биологическом смысле этого слова.
On pourrait dire que la vie humaine est survie, mais pas au sens de la survie. C'est plus que la vie au sens biologique.
Человеческая жизнь – это не просто выживание, это нечто большее, чем просто биологическое существование.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie humaine est plus que la vie au sens des besoins biologiques.
То есть человеческая жизнь это нечто большее, чем простое удовлетворение биологических потребностей. Voilà. Она не сводится к биологическим потребностям.
Donc il y a une différence très nette à faire entre le désir proprement humain et le besoin.
Поэтому четко надо проводить различие между желанием. Человеческим желанием и потребностью.
Et le besoin qui est, lui, animal.
Потребностью, которая является, которая пришла к нам из животного мира.
Alors, ça sera très important pour Lacan aussi.
Для Лакана это тоже очень важно.
Qui suit Kojève en posant le désir comme étant le point de rupture.
Потому что он ставит желание как точку разрыва.
De l'homme par rapport à sa réalité animale.
Между человеком и животным миром, между реальностями человеческого мира и животного мира.
Voilà. Alors, c'est le sens de cette citation que je vais vous donner maintenant.
И вот это как раз смысл вот той цитаты, которую я считаю, того отрывка, который я вам сейчас процитирую.
Alors, dans le texte français, c'est la première page, le troisième paragraphe.
Это третий параграф первой страницы. Attendez, je trouverai peut-être.
Mais si le désir. Alors, je lis en français en attendant.
Ouais, attendez.
Mais si le désir animal est la condition nécessaire de la conscience de soi,
является необходимым для самопознания, для самоидентификации,
il n'en est pas la condition suffisante.
Это недостаточное условие для этого, тем не менее.
D'accord, donc ce qu'il appelle le désir animal, c'est en fait le besoin, si vous voulez.
То, что он называет животным желанием, это потребность.
Donc il faut donc bien distinguer entre ce que Kojève, suivant Hegel, appelle la conscience de soi.
Поэтому нужно различать то, что Кожевников
en allemand,
после Гегеля называет самоидентификацией или осознанием себя.
Самосознание.
En allemand, Selbstbewusstsein.
Существует вот немецкий термин, который только что был процитирован.
Qui est proprement humaine.
Существует, так сказать, чисто человеческое измерение этого явления.
Et ce qu'on pourrait appeler le sentiment de soi.
И существует также то, что можно назвать ощущением себя.
Ce qu'Hegel appelle Selbstgefühl.
Delfgefühl, по Гегелю.
Et qui est, lui, animal.
И это уже, так сказать, характеристика животного мира.
Voilà. Donc, on peut avoir un sentiment de soi sans être proprement conscience de soi.
То есть можно ощущать себя, но, так сказать, но при этом самосознание у вас может не быть.
Donc il y a une espèce d'intuition ou de sentiment de soi de la vie animale.
Существует некая интуиция, некое ощущение, которое относится к животному миру.
qui est proprement à distinguer de la conscience de soi.
Которое нужно отличать от самосознания, которое принадлежит человеческому измерению.
Alors voilà la façon dont Hegel, pardon, dont Kojève lui-même formule.
Вот таким образом Кожевников формулирует
la distinction.
Вот это различие.
Alors, c'est ce passage-là.
L'être qui mange.
Alors, l'être qui mange, par exemple.
Вот, скажем, например, существо, которое ест, которое питается.
Crée et maintient sa propre réalité.
Создает и поддерживает свою собственную реальность.
Par la suppression de la réalité autre que la sienne.
Уничтожая или другую реальность, не реальность, не принадлежащую к нему.
Par la transformation d'une réalité autre en réalité sienne.
Преобразуя другую реальность в собственную реальность.
Par l'assimilation,
за счет ассимиляции,
l'intériorisation,
за счет, так сказать, поглощения,
d'une réalité étrangère et extérieure.
Внешней реальности.
Voilà.
Чуждой ему внешней реальности.
À l'inverse,
наоборот,
le moi du désir est un vide.
Я. Желание является, так сказать, собственно, пустотой,
qui ne reçoit un contenu positif,
которое получает позитивное наполнение или позитивное содержание,
qui satisfait, pardon, que par l'action négatrice, qui satisfait le désir en détruisant,
который, так сказать, превращается в желание, разрушая,
transformant,
преобразовывая
et assimilant,
и ассимилируя
le non-moi désiré.
То, что объект желания, объект, желаемое, на который...
Желаемое не я.
Желаемое не я, ну извините. Желаемое не я.
Alors, qu'est-ce qui distingue, au bout du compte, le sentiment de soi de la conscience de soi?
Что отличает самосознание?
Qu'est-ce qui distingue l'animalité de l'humanité?
Что отличает, так сказать, животный аспект человеческой натуры?
Eh bien, c'est précisément cette forme de transcendance à laquelle je faisais allusion auparavant.
Вот эта форма трансцендентности, о которой я говорил ранее.
L'humain, la réalité humaine, autrement dit.
То есть человеческую реальность, другими словами.
Voit au-delà de l'être purement naturel.
Каким образом она выходит за чисто, так сказать, примитивное природное существо? За счет чего?
Autrement dit, la capacité de négation de la réalité humaine.
То есть способность отрицания человеческой реальности.
N'est pas seulement une capacité de consommation.
Это не только способность к потреблению.
Et c'est là alors qu'il faudrait distinguer.
Поэтому здесь нужно отличать.
Et peut-être réfléchir sur ce qu'on appelle aujourd'hui la consommation.
Подумать, так сказать, над тем, что мы сегодня называем словом потребление.
Ce qu'on appelle la consommation au sens économique du terme.
С экономической точки зрения, потребительское общество, потребление, потребители и так далее.
Qui évidemment au cœur du dispositif capitaliste.
Которое, собственно, является центральной частью, так сказать, существующей капиталистической системы.
Et la consommation au sens biologique du terme.
И потребление с биологической точки зрения этого слова.
Donc il faudrait distinguer entre la consommation animale,
то есть животное потребление,
et ce qui encore existe de désir au sens proprement humain dans la consommation au sens...
И то, что существует, так сказать, от желания, тот элемент желания, который существует в потреблении.
Экономик du terme.
В экономическом потреблении, я опять же говорю, что это с экономической точки зрения. Где какое место занимает желание в процессе потребления?
Et dans la première conférence, j'avais justement présenté la solution marxiste qui était...
В первой лекции, в первом уроке, который я прочел, я как раз рассказывал о марксистском подходе,
qui consistait à écraser en quelque sorte, ou à rabattre plutôt, les désirs sur des besoins.
Который связан с тем, чтобы свести желание к потребностям. Это материалистический марксистский подход. Избавиться от ненужных желаний капиталистических и, так сказать, оставить только потребности.
Voilà, alors pour revenir à cette notion de négation propre au désir humain,
чтобы вернуться к понятию, к отрицанию, собственно, желания.
Cette capacité de négation, Sartre, lui, l'appellera la néantisation.
Et вот эта способность к отрицанию, Sartre называет это способностью к созданию ничто, или к созданию, так сказать, вакуума.
Alors, si on avait le temps, évidemment, il faudrait montrer très précisément ce qui lie la néantisation au désir chez Sartre.
Если бы у нас было время, мы бы, так сказать, постарались перекинуть мостик между желанием и вот этим отрицанием или созданием и отсутствием желания.
C'est quelque chose que j'avais l'intention de faire.
Я собирался это сделать.
La semaine prochaine, mais je ne suis pas certain qu'on va avoir le temps de le faire.
Как раз на следующей неделе, но я не уверен, что у меня просто будет время на это.
Parce que qu'est-ce que révèle au bout du compte la conscience désirante chez Hegel?
Что у Гегеля подразумевает сознание, обладающее способностью желания?
Et aussi peut-être chez Sartre, c'est que chez Sartre aussi peut-être.
Et может быть, у Сартра то же самое, кстати говоря.
C'est que plus la conscience, en quelque sorte, consomme le monde, dévore le monde.
Чем больше наше сознание, чем более, так сказать, потребляет,
plus elle est insatisfaite,
тем больше, так сказать, у нее проявляется, так сказать, тем больше она ощущает себя неудовлетворенной.
Et plus elle veut nier le monde.
Et тем больше требуется ей еще потреблять.
Au bout du compte, ce que la conscience réalise,
et в конце концов, когда сознание понимает,
c'est que le monde, en tant que monde d'objets, en tant que monde de choses,
что феноменальный мир, мир предметный,
ne peut pas la satisfaire.
Недостаточен для того, чтобы принести удовлетворение сознанию.
Autrement dit, l'appétit qui la meut, l'appétit qui la motive,
то есть тот аппетит, который мотивирует поведение вот это потребительское,
est un appétit pour quelque chose qui est différent d'un autre ordre que l'ordre naturel, que l'ordre du monde, que l'ordre des choses.
На самом деле, выходит за рамки предметного мира, выходит за рамки, так сказать, материального мира.
Autrement dit, ce que vise le désir.
То есть то, что лежит в основе желания,
son objet, si vous voulez,
объект желания,
n'est précisément rien d'objectif ou rien d'objectal.
На самом деле является чем-то субъективным, он не имеет ничего объективного, основу под собой.
Mais ce que le désir désire est,
но то, что желает желание,
un autre désir, un désir pur et libre.
Так сказать, за этим стоит еще одно желание. Чистое и свободное желание.
Car un autre désir, c'est précisément la seule chose qui soit au-delà de l'ordre naturel.
Потому что именно это желание стоит за материальными.
D'accord, donc,
потребностями, за материальным миром.
Le véritable objet du désir, c'est
поэтому настоящий объект желания,
un autre désir.
Это еще одно желание.
Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ну что это значит на самом деле?
Ça veut dire qu'au bout du compte, le désir que l'on peut avoir pour X.
Это значит, что желание, которое можно испытывать в отношении некого объекта X,
c'est-à-dire un désir pour un objet quelconque,
ну, повторю еще, желание в отношении какого-то объекта,
est en fait un désir qui vise à être reconnu lui-même comme désir.
Это то желание, которое само себя не признает желанием.
Mais que dit Hegel? Il dit qu'au bout du compte,
но, seul, Гегель, в конце, в конечном счете,
le seul objet, en quelque sorte, qui puisse reconnaître mon désir comme désir,
единственный объект, который может признать мое желание как таковое желание,
c'est une autre conscience désirante,
это другое желающее сознание, потому что наше сознание себя познает в сочетании с другим.
Voilà, c'est une autre conscience de soi.
То есть еще иное, другое самосознание.
Donc, ce n'est que la reconnaissance de mon égal.
И только признание равного себе,
qui peut satisfaire,
может принести удовлетворение,
mon désir de reconnaissance.
Моему, так сказать, желанию узнавания.
Donc, L'objet du désir est en fait le désir lui-même.
Предмет желания – это само желание.
Que la conscience de soi trouve dans un autre désir.
Которое самосознание обнаружит в другом желании.
Alors, là, je voudrais vous renvoyer au ce qui est le sixième paragraphe du texte français.
Значит, сейчас я хочу вас отослать к шестому параграфу этого французском тексте. Не уверен, что то же самое в русском тексте переводе, где Кожевников говорит.
Donc, Кожев dit ceci: le désir humain, ou mieux encore,
человеческое желание или
anthropogène,
антропогенное желание, то есть желание исходящее от человека, из человека,
constituant un individu libre et historique, conscient de son individualité,
то есть желание свободной исторической личности, сознающей себя таковой,
de son histoire,
имеющей собственную историю,
et finalement de son historicité,
и обладающей историческим сознанием,
ce désir-là, donc ce désir anthropogène,
вот это антропогенное или человеческое, исходящее от человека желание,
diffère donc du désir animal,
отличается от животного желания,
par le fait qu'il porte non pas sur un objet réel, positif,
тем, что оно направлено не на реальный, позитивный объект,
mais sur un autre désir,
а на другое желание.
Alors, ce qu'on désire dans le désir,
поэтому то, что мы желаем в желании,
et pour utiliser un exemple,
ну, можно привести такой пример,
mais c'est un exemple, évidemment, qu'on va retrouver aussi bien chez Sartre hein, que chez Lacan.
Этот пример встречается у Лакана и у Сартра.
Ce n'est pas dans le désir érotique, par exemple. Ce n'est pas le corps de telle femme ou de tel homme.
Например, эротическое желание. Речь идет не о теле женщины, или если это мужчина, и теле мужчины, если считать женщиной.
Mais ce qu'on désire, c'est son désir à lui ou à elle.
Но мы на самом деле желаем собственное желание.
Son propre pouvoir de négation ou de néantisation, pour utiliser le mot sartrien.
Способность к отрицанию или созданию вакуума, используя терминологию Сартра, я не уверен, что я правильный термин употребляю.
Неантизация.
Неантизация, вот замечательное русское слово.
Autrement dit, ce que je désire, c'est...
То есть, то, что я желаю, то, что я хочу, к чему я стремлюсь...
C'est la liberté de l'autre.
Donner la liberté à l'autre.
Non, c'est...
Au contraire.
C'est la liberté. Ce que mon désir vise, c'est l'être libre de l'autre.
Ah, non, c'est la liberté. Libre de l'autre.
L'être libre.
Значит, на самом деле, что отражает наше... К чему стремится желание? Это освободиться от другого, быть независимым от другого.
Alors, évidemment, chez Sartre, ce problème donne lieu à une dialectique qui s'avère être une impasse totale, alors que...
У Сартра в связи с этим возникает целая диалектика, которая приводит нас в тупик на самом деле.
Alors que chez Hegel, et en particulier dans la façon dont Kojève l'interprète, il y a une solution à cette dialectique du désir.
И в интерпретации Кожевникова, Гегеля, существует решение этого вопроса, этой проблемы.
Alors, je lis la phrase qui suit immédiatement celle que je viens de lire dans le texte.
Фразу, которая вот здесь во вступлении Кожевникова.
Ainsi, dans le rapport entre l'homme et la femme, par exemple.
Например, в отношениях между мужчиной и женщиной.
Le désir n'est humain.
Желание является человеческим атрибутом.
Que si l'un désire non pas le corps,
если мы желаем не тело,
mais le désir de l'autre,
а желание другого,
s'il veut posséder ou assimiler le désir pris en tant que désir,
если мы хотим обладать желанием, которое воспринимается как желание,
c'est-à-dire s'il veut être désiré ou aimé,
То есть, если человек желает быть, желает любить или быть любимым,
ou bien encore, reconnu,
или быть признанным любящим или любимым,
dans sa valeur humaine,
как человек,
dans sa réalité d'individu humain,
в своей реальности человеческого индивида.
Alors évidemment, la littérature elle-même est pleine de cette dialectique en quelque sorte du désir.
Поэтому в литературе очень четко прослеживается вот эта диалектика желания.
De cette ambiguïté du désir.
Вот эта двойственность желания.
Qui porte toujours sur un corps,
mais которая казалось бы внешне направлена на конкретный предмет, на тело.
Mais qui au travers du corps vise une transcendance.
Но на самом деле идет дальше.
Mais qui
является трансцендентной по отношению к этому телу.
Mais qui précisément parce qu'elle est une transcendance,
и за счет этого
échappe à mon désir.
За счет этого это желание, собственно, перестает быть желанием. Оно выходит за рамки нашего желания.
И, on peut penser ici à Proust, par exemple.
Вот здесь, например, можно подумать о Марселе Прусте.
Pour qui le désir amoureux
для которого любовное желание
ne peut que mal finir.
Ne peut que
mal finir.
Может кончиться только очень плохо, исключительно.
Alors, on va voir que, à nouveau, avec chez Kojève, et chez Kojève tel qu'il interprète,
et поэтому Кожевников, который интерпретирует,
et Hegel, il y a une voie possible de la reconnaissance,
существует возможность признания,
une voie de la reconnaissance qui va passer par un détour, qui sera le détour du travail et de l'histoire,
которую можно достигнуть за счет работы и истории.
C'est là que la notion de médiation.
Здесь возникает проблема медиации или посредничества.
Intervient et joue son rôle chez Hegel.
А вот у Гегеля это связано с проблемой медиации, с проблемой посредничества.
Alors, la question est de savoir.
Значит, вопрос заключается в следующем.
Comment cette rupture avec l'être animal?
Как разрыв с животное, сущностью человека,
avec l'être naturel,
с естественным существом,
se manifeste.
Вот как осуществляется, как проходит этот разрыв?
Et elle se manifeste, tout d'abord,
и прежде всего это проявляется
dans un rapport très spécifique à la mort.
В очень специфичном отношении к смерти.
Alors, à nouveau ici, cette thématique de la mort est une thématique qui existe bien dans le texte hegelien.
И вот здесь вот опять тематика, проблематика смерти, которая присутствует у Гегеля.
Mais je crois que Kojève accentue et en quelque sorte existentialise.
А я думаю, что здесь Кожевников акцентирует, так сказать, дает некую экзистенциалистскую картину.
Par le biais de l'analytique du Dasein. Qu'on trouve chez Heidegger.
Par
l'analytique de l'existence, l'analytique du Dasein qu'on trouve chez Heidegger.
Используя диалектику, да, Heidegger.
Alors, quelle est la nature de ce rapport à la mort?
В чем заключается природа вот этого вот отношения к смерти?
Eh bien, c'est un rapport à la mort de la conscience de soi elle-même, donc un rapport à sa propre mort.
Это осознание смерти собственного самосознания, собственного я.
Pour la vie animale,
в животном мире,
et pour la vie dans son ensemble.
Для жизни вообще в биологическом смысле этого слова.
Il n'y a rien de plus précieux.
Самым ценным элементом является
que la vie elle-même.
Сама жизнь.
C'est une tautologie en quelque sorte. Rien.
Это тавтология в определенном смысле. Нет ничего ценнее жизни.
Rien, autrement dit, n'est plus précieux pour la vie que la conservation, la préservation de la vie elle-même.
То есть для жизни самое ценное это сохранение самой жизни.
Au cœur de la vie, il y a
В центре жизни
le désir de conserver la vie,
вот лежит это желание сохранить жизнь, инстинкт самосохранения.
И il n'y a rien au-delà.
И помимо этого больше ничего не существует. Надо всеми силами цепляться за жизнь.
Et ce désir de conserver, de préserver la vie.
И вот это вот стремление, желание сохранить жизнь.
C'est précisément ce que Freud appellera le Lebenstrieb.
Это то, что называется, у Фрейда называется Lebenstrieb.
La pulsion de vie, ou le désir de vie.
Стремление к жизни.
Donc, la vie est pour la vie la valeur suprême.
То есть, жизнь является высшей ценностью для жизни.
Mais on verra que, et en cela, le texte freudien ressemble, en tout cas fait écho au texte hegelien.
Но мы увидим, что и в этом смысле трактовка у Фрейда похожа на ту, которую мы обнаруживаем у Гегеля.
Il va reconnaître un désir au-delà de ce désir de vie, de cette pulsion de vie.
Потому что он признает, что желание может иметь другое измерение, что оно выходит за рамки простого желания любой ценой сохранить свое существование, жизнь.
C'est précisément ce qu'il appellera la pulsion de mort.
И вот этим объясняется, так сказать, стремление к смерти, стремление к саморазрушению.
Voilà, mais alors, cette pulsion de mort, d'une certaine façon, on peut la voir à l'œuvre dans le texte hegelien.
И вот это вот стремление к саморазрушению, к смерти, оно встречается у Гегеля.
Sous quelle forme? Sous la forme précisément?
В какой форме? Конкретно в форме?
De ce risque que la conscience de soi est prête à prendre?
Того риска, той опасности, на которую готово пойти самосознание.
On le voit dans le fait que la conscience est prête à sacrifier sa propre vie.
Сознание, самосознание готово пожертвовать собой.
Précisément afin d'être reconnu.
Только для того, чтобы быть признанной как таковой.
Autrement dit,
иными словами,
c'est seulement face à une autre conscience de soi.
Только в столкновении с другим самосознанием.
Et non face à un être naturel,
а не по сравнению с природным существом,
que la conscience de soi peut espérer être reconnue.
Самосознание может надеяться на признание.
Mais c'est précisément ce désir de reconnaissance,
но именно это желание признания,
qui suppose cette fameuse lutte à mort,
предполагает вот это вот борьбу не на жизнь, знаменитую борьбу не на жизнь, а на смерть.
Entre les deux consciences de soi.
Между двумя, так сказать, видами, двумя формами самосознания.
D'accord, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'une conscience de soi fait face à une autre conscience de soi,
то есть, что это значит? Когда самосознание как бы растворяется в другом самосознании,
chaque conscience doit être prête à aller jusqu'au bout de son désir afin d'être reconnue comme
каждое,
désir.
Каждое самосознание как бы проявляет готовность идти до конца с тем, чтобы его признали как таковое.
Autrement dit, c'est seulement dans la mort,
и таким образом только в смерти,
dans cette capacité qu'a la conscience de soi à renoncer à la vie,
в способности, которая имеет, которая заложена в самосознании, отказаться от жизни как от высшей ценности,
qu'elle peut s'imposer comme absolument libre,
и именно в этом самосознание проявляется высшая степень свободы самосознания,
ou comme souveraine,
как совершенная независимость и полная свобода самосознания.
Donc, le début de cette dialectique,
вот начало этой диалектики,
du désir et de
желания,
et de cet horizon de reconnaissance
того, что лежит в основе желания, то есть потребности в признании,
est un début qui met en scène, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler une éthique et une vie de l'aristocratie, de la souveraineté.
Это нечто, так сказать, жизнь аристократии, это способность, возможность самому распоряжаться собой, своим сознанием. суверенна.
Voilà, c'est-à-dire que tant qu'une conscience de soi est prête à sacrifier la valeur suprême pour la vie, qui est la vie.
То есть, если самосознание до того времени, пока самосознание готово пожертвовать собой,
elle est une conscience souveraine.
Оно является независимым и самостоятельным.
Voilà, c'est-à-dire qu'elle a démontré sa capacité à s'élever au-dessus de son être purement naturel.
То есть она доказала сама себе способность выйти за рамки природного существа.
Alors,
животного.
Simplement afin d'illustrer, je crois que j'ai parlé de littérature tout à l'heure.
Ce
que pourrait être cette lutte à mort entre deux consciences de soi.
Смертельная схватка между двумя самосознаниями, что это такое?
On peut penser à une petite nouvelle de Joseph Conrad.
Можно, так сказать, я думаю о небольшом рассказе Жозефа Конрада.
Qui s'appelle le duel.
Он называется «Дуэль».
Et qui met en scène deux officiers de l'armée française sous Napoléon.
И, значит, там рассказывается о двух офицерах французской армии.
Dont la vie entière se passe dans une série de duels.
Вся жизнь которых состоит из череды дуэлей.
Et dans cette série de duels, ni l'un ni l'autre ne veut jamais se soumettre au désir de l'autre.
В ходе этих дуэлей каждый из дуэлянтов не желает признавать правоту другого. Они как бы постоянно противоставляются друг другу.
Mais si on en fait une lecture hegelienne, on peut dire que...
Но если мы попытаемся прочесть этот рассказ с точки зрения Гегеля...
Si on a affaire à une situation où ni l'une ni l'autre ne veut renoncer à son désir...
Если ни одна, ни другая сторона не желает отказаться от собственного желания...
Eh bien, on est dans l'impasse historique totale.
То мы находимся в полном историческом тупике.
Alors, Hegel, lui, va trouver une solution.
И Гегель нашел решение этому вопросу.
C'est cette solution qu'il nous faut maintenant analyser.
И сейчас мы пытаемся вот это гегелевское решение проанализировать.
Parce qu'en effet, pour qu'il y ait solution, il faut, selon Hegel, qu'il y ait une des deux consciences qui renonce à cette valeur
Потому
suprême.
Потому что для того, чтобы было решение, по Гегелю, одно из самосознания должно отказаться.
Il faut que l'une des deux consciences renonce à se voir reconnue comme liberté, comme souveraineté.
От необходимости быть признанным в качестве, так сказать, самостоятельной независимой единицы.
Il faut que l'une des deux consciences se plie au désir de l'autre et renonce
поэтому,
à son propre désir.
Одно сознание, одно самосознание должно подчиниться другому. Вот что это предполагает.
Alors là, je cite le paragraphe 12, donc page 15.
12 paragraphe Кожевникова.
Кожев écrit ceci. L'un, sans y être aucunement prédestiné,
один,
l'un ou l'une, parce que ça veut dire conscience de soi. Oui.
Одно самосознание
doit avoir peur de l'autre.
Должно бояться, испытывать страх по отношению к другому.
Doit céder à l'autre.
Должно уступить другому.
Doit refuser le risque de sa vie.
Должна отказаться поставить под удар свою жизнь.
En vue de la satisfaction de son désir de reconnaissance.
В ходе, так сказать, отказаться от потребности признания себя в качестве независимого субъекта.
Donc il y a, autrement dit, de la part d'une des deux consciences, celle qui
одно из двух сознаний или самосознание,
celle qui renonce à la satisfaction immédiate,
то, которое, в частности, отказывается от признания себя таковым,
une forme de calcul, si vous voulez,
это определенный расчет тут просматривается,
qui fait qu'elle ne renonce pas complètement
то есть
à la reconnaissance,
на самом деле оно не полностью отказывается от признания,
mais simplement reporte, repousse,
а, так сказать, как бы оттягивает это признание, переносит его на более, так сказать, поздний срок.
Repousse ce désir de reconnaissance à plus tard.
Oui.
D'accord, vous avez terminé. Oui.
Mm-hmm.
Alors, ce qu'il faut souligner, c'est la façon dont la conscience, qui est la conscience, comme le dit Hegel, du maître.
Du maître?
Oui, du maître.
Du maître ou du seigneur.
То есть то, как говорит Гегель, то, о чем говорит Гегель, сознание господина, сознание хозяина.
En faisant preuve de cette liberté vis-à-vis de la vie naturelle,
проявляя свободу в отношении, так сказать, природного или, так сказать, животного существа,
donc la conscience du maître ou la conscience souveraine,
человеческое сознание или свободное сознание
démontre sa liberté par rapport à la vie animale.
Тем самым доказывает свою свободу от чисто биологического животного существования.
Donc, dans cet affrontement des deux consciences,
и вот в этом акте столкновения двух самосознаний,
la conscience du maître est dans un premier temps,
а сознание господина является первоочередным,
mais dans un premier temps seulement,
вернее, в начале является, только в начале,
victorieuse.
Победительницей. Donc, казалось бы.
On va voir que la victoire du maître est une victoire seulement temporaire.
Но мы увидим, что победа господина является лишь временной победой.
Et dans ce premier temps,
и на первом этапе,
le maître est reconnu comme tel,
господин признается таковым,
par cette conscience qui, elle, n'a pas su renoncer à sa vie naturelle,
а сознанием, которое не смогло отказаться от своей природной биологической сущности.
Et qui, de ce fait, est une conscience assujettie.
И на самом деле это подчиненное сознание.
Une conscience, comme le traduit Kojève, une conscience d'esclave. D'esclave. Esclave.
Это сознание, сознание раба, сознание подчиненное.
Феномен власти.
Как?
Феномен власти возникает.
C'est le phénomène du pouvoir qui surgit.
Oui, 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 oui.
Да, да, совершенно верно.
Mais alors, s'il est libre du royaume naturel.
И поскольку, если предположить, что самосознание свободно от оков биологических, от природы,
quand je dis si il, c'est le souverain, la conscience souveraine ou la conscience du maître,
сознание господина, сознание хозяина,
c'est parce que sa relation au monde naturel,
то это объясняется тем, что его отношение к природе, к естественному ходу вещей, к естественному миру.
Et désormais une relation médiate, médiatisée par le travail de l'esclave lui-même.
Проходит через, так сказать, через работу, которую проделывается рабом. Раб здесь выступает в качестве медиатора, в качестве посредника.
Donc vous voyez que du point de vue de la dialectique hegelienne, ce qui se pose comme une souveraineté, une liberté totale,
то, что воспринимается как полная свобода,
s'avère être au bout du compte une liberté absolument conditionnelle.
На самом деле, это условная, очень условная вещь.
Autrement dit, la certitude qu'a la conscience de soi souveraine, de sa souveraineté et de sa liberté.
То есть, на самом деле, понимание собственной свободы и собственной независимости, которая испытывает самосознание,
ни purement subjective, ни purement immédiate,
не является субъективным, не является непосредственным,
mais elle est objectivée,
она, вот это самосознание, объективируется,
et médiatisé,
медиатизируется
par la reconnaissance de l'esclave.
Признанием со стороны раба.
Alors, ce qui est très important ici, à souligner, parce que je crois qu'il va y avoir des rapports
это очень важно, потому что я уверен,
extrêmement
что есть
étroits avec la pensée de Freud et de Lacan.
Здесь есть мостики к философии Лакана.
Ce qui est important de souligner, c'est que le рапорт du maître ou du souverain, si vous voulez, ou du seigneur au monde,
отношение между, так сказать, хозяином или господином и миром
est un rapport de pure satisfaction,
это чистое удовлетворение потребностей. Вот что это такое.
On pourrait dire de pure jouissance.
Или чистое обладание.
Pourquoi ça?
Почему?
Parce que il satisfait son désir en détruisant, en assimilant,
потому,
en consommant.
Потому что удовлетворение желания происходит за счет разрушения или ассимиляции, или потребления.
Le fruit du travail,
результат работы,
de la conscience assujettie, de l'esclave.
Подчиненного самосознания, или самосознания раба, рабского.
D'accord. Donc, tout ce qu'il fait, en quelque sorte, c'est consommer.
То есть, на самом деле, происходит просто потребление.
Et jouir de, et jouir du produit du travail de l'esclave.
Обладание результатом работы раба.
Donc,
присвоение результата работы раба.
C'est pour ça que Hegel utilise le mot de genuss.
Поэтому Гегель использует слово genuss.
De jouissance.
Обладание.
Pour qualifier la position et, le, et la, la satisfaction qui est propre au maître.
Говоря о удовлетворении, которое испытывает, так сказать, хозяин,
donc, господин. La vie du maître, la
non.
vie du seigneur,
жизнь господина, жизнь хозяина,
est une vie de pur plaisir.
Она состоит, собственно, из сплошных удовольствий.
On pourrait dire d'une certaine façon que le maître est, est retourné au jardin d'Éden.
То есть он, вот хозяин, это его сознание, как бы вернулось в райский сад.
Alors, on va voir,
проживает в райских кущах.
Au bout du compte, pour Hegel, il n'en est rien.
Но для Гегеля это совсем не так.
Pourquoi? Parce que qu'en est-il de l'autre conscience? Si maintenant
потому
on se tourne
что,
vers l'autre conscience.
А где же в это время находится другое самосознание?
L'autre conscience, c'est celle qui a choisi la vie plutôt que la liberté.
А другое самосознание выбрало, так сказать, не свободу, скорее не свободу, а жизнь.
Et c'est donc une conscience qui est arrimée, qui est entièrement attachée.
И поэтому это самосознание полностью привязано
à la vie naturelle ou à la vie animale.
К животной жизни.
Et en tant que telle, elle ne fait, comme le dit Hegel, elle ne fait qu'une avec le monde naturel des choses.
И поэтому оно полностью слито с природой, с природным миром.
Alors, le, l'esclave s'identifie avec le reste du monde animal.
Поэтому раб себя идентифицирует с,
duquel,
с природой, с, с животным миром.
Duquel il n'a pas su se libérer.
От которого он не смог освободиться.
Et c'est en tant que tel qu'il est perçu par le maître.
Et именно так он и воспринимается господином, хозяином.
Donc il n'est pas perçu par le maître comme une véritable conscience de soi.
То есть он не воспринимается хозяином как, собственно, самосознание в полном смысле этого слова.
Mais en réalité,
в то время как на самом деле,
le, la relation qu'entretient cette conscience esclave au monde,
отношение между вот этим вот подчиненным самосознанием
est aussi,
и окружающим миром
est aussi une relation de négation.
Оно тоже основано на отрицании.
Mais il s'agit d'une négation ou d'une négativité qui est différente.
Qui est?
Différente de celle du maître.
Но это отрицание или негативация, оно отличается от того, которое есть у доминирующего или у хозяина господина.
Pourquoi? Parce que l'esclave ne consomme pas, ne détruit pas.
Потому что раб, рабское самосознание не потребляет, не разрушает.
Il ne profite pas, il ne jouit pas de son travail.
Il не обладает результатами своего труда.
Mais ce qu'il fait, et c'est sa forme à lui de négativité.
Non. Что же это самосознание делает? И это присущая ему форма негативизма.
Par son travail, il transforme le monde.
Своим трудом он преобразовывает мир.
Par son travail, il transforme le monde pour la consommation du maître.
Для того, чтобы вот этот мир мог быть потреблен хозяином.
Autrement dit, au bout du compte, sa relation,
то есть отношение,
au monde est médiatisé non pas par le maître,
médiatisируется не хозяином, не господином,
par un rapport au, au maître,
не отношением с хозяином,
mais par sa propre activité.
Но оно миотизируется и реализуется за счет собственной деятельности этого самосознания, подчиненного или
рабского.
Собственного труда этого самосознания.
Et c'est le produit de ce travail,
и продукт, результат этого труда,
qui fournit au maître sa propre jouissance. sa propre
приносит удовлетворение как раз хозяину, является предметом удовлетворения для самосознания, выступающего в роли хозяина или господина.
Donc, l'aspect essentiel de l'analyse ici,
значит, что тут основное вот в этом анализе?
Et que le maître reconnaît l'esclave,
что господин признает раба,
pas au sens fort, au sens de la reconnaissance qui était visée au départ,
не в смысле полного признания, о котором мы говорим.
Il le reconnaît seulement comme un animal, c'est-à-dire comme un être.
Его в качестве животного.
Comme un être purement naturel.
Как некое естественное природное существо.
Tandis que l'esclave, lui, reconnaît le maître.
А подчиненное сознание, раб, признает господина
comme un être libre,
в качестве свободной сущности, свободного, так сказать, comme существа.
Comme une réalité humaine, au sens
как
fort,
человеческую au sens реальность, в том смысле, в который употребляет этот термин Сартр.
Autrement dit, comme un pur désir.
То есть, как желание в чистом виде.
Alors, pourquoi est-ce que ce point est aussi important?
Почему вот это очень важно?
Parce qu'il signale l'échec implicite.
Потому что здесь подразумевается поражение, неудача
du point de vue du maître.
Точки зрения господина.
Et il signale donc le début d'un renversement dialectique.
И здесь просматривается начало диалектического, так сказать, смены знака диалектического.
Ce qu'il révèle au bout du compte, c'est l'impasse dans laquelle s'est engagé.
То есть это тот тупик, в который зашел
la conscience souveraine.
Зашел господин, зашел хозяин.
Pourquoi ça?
Почему?
Parce que vous vous souvenez que chaque conscience de soi vise à être reconnue.
Потому что я уже говорил, помните, каждое самосознание стремится быть признанным таковым.
C'est-à-dire comme désir. Elle peut être reconnue comme désir ou bien encore, si vous voulez, comme transcendance.
То есть как желание или как трансцендентная сущность.
Ce que chaque conscience de soi voulait.
И поэтому любое самосознание.
C'était que son désir soit satisfait, c'est-à-dire reconnu.
Стремиться к тому, чтобы его желание было удовлетворено, то есть признано.
Mais si, comme on l'a vu, l'esclave, lui, reconnaît le maître comme un pur désir, un désir transcendant.
Но если раб признает хозяина, господина, как желание в чистом виде, как трансцендентное желание.
Le maître, lui,
то хозяин
est reconnu non pas par un pur désir, mais par une réalité naturelle, une réalité animale.
Признается, так сказать, на самом деле, природной, биологической, животной реальностью.
Autrement dit, comme le dit Kojève,
как говорит Кожевников,
le maître est reconnu par quelqu'un,
признание господина, оно делается кем?
Qu'il ne reconnaît pas.
То есть, той сущностью, которую его, собственно, не признает. А? Oui, par la... Да.
Autrement dit, le maître s'est battu et a risqué sa propre vie.
То есть, на самом деле, господин сражался, он, так сказать, рисковал собственной жизнью.
Pour une reconnaissance qui, au bout du compte,
ради признания, которого в конечном счете,
et pour lui, sans aucune valeur.
Для него не имеет никакой ценности.
Donc c'est précisément de cette façon que du point de vue du maître,
именно так, с точки зрения господина, с точки зрения хозяина,
la dialectique aboutit à ce que Kojève appelle une impasse existentielle.
Диалектика приводит к тому, что Кожевников называет экзистенциальный тупик.
Autrement dit, contrairement à ce qu'on avait cru au départ.
То есть, в отличие от того, что нам казалось вначале,
c'est le point de vue de l'esclave qui s'avère être la voie du désir et la véritable voie de la reconnaissance.
На самом деле, путь желания, путь признания, он заложен, так сказать, в поведении раба.
Comment cela? Tout d'abord,
почему? Потому что прежде всего,
comme on l'a déjà dit,
как мы уже говорили,
dans la mesure où le maître ne se sait qu'au travers de la reconnaissance de l'esclave.
Почему? Да потому что хозяин, господин, признает себя таковым только через сознание раба.
Ce qu'il a en face de lui, ce qui existe pour lui, ce n'est pas une conscience autonome, indépendante.
Перед ним не независимое, не самостоятельное самосознание.
Mais une conscience qu'Hegel appelle non essentielle.
А non essentiel.
Non essentiel, voilà.
А не, так сказать, не эссенциональное, так сказать, самосознание.
Autrement dit, la conscience libre du maître.
То есть свободное самосознание хозяина, господина.
S'avère au bout du compte dépendre.
В конечном счете проявляет себя как зависимое.
De la reconnaissance d'un esclave.
От признания раба.
Ensuite, et peut-être de façon plus importante encore,
и затем, может быть, это еще важнее,
l'esclave est celui qui réalise,
раб это тот, кто,
dans l'effectivité, celui qui réalise dans les faits,
который реально, фактически,
ce que le maître, lui, n'avait pu réaliser que de façon, dirait-on, symbolique.
Реализует то, что хозяин, реализовал чисто символически.
Dans cette lutte, qui était une lutte, comme le disait Hegel au départ, une lutte de pur prestige.
Вот за это, в этом столкновении, в этой борьбе, целью которых, так сказать, лишь, так сказать, борьба за престижность.
Car la voie dans laquelle s'est engagée la conscience esclave,
потому что тот путь, по которому идет самосознание раба,
s'avère être au bout du compte la voie véritable,
в конечном счете оказывается правильным и настоящим путем,
puisque c'est la voie de la transformation du monde, par le travail.
Потому что это путь преобразования мира.
Et par son travail, précisément,
и за счет своей работы,
l'esclave
раб,
transforme, forme, modèle,
преобразует, создает некую модель,
le monde,
создает модель мира,
qui est du coup fait à son image,
по своему образу и подобию.
Il y a donc un processus d'extériorisation,
существует процесс экстериоризации,
de l'essence de la conscience esclave,
сути самосознания раба,
dans le monde et vers le monde.
Существует проекция этого самосознания в мир.
Et ça, ce processus, Hegel appelle un processus d'extériorisation, de Entäußerung.
Et этот процесс экстериоризации, по выражению Гегеля,
est précisément un processus de libération. C'est un processus.
Это процесс освобождения.
Mais,
на самом деле.
Mais la liberté est acquise, précisément.
Свобода достигается
au travers de ce processus,
вот в ходе этого процесса,
au travers du travail.
За счет чего? За счет труда, за счет работы.
Alors vous savez peut-être que ce processus d'extériorisation est au cœur de la pensée.
То есть процесс экстериоризации, проекции вовне является основой этого процесса.
De la pensée hegelienne, mais qu'il y a toujours.
Является, так сказать, основой мысли Гегеля.
Il y a toujours chez Hegel. Avec ce processus ou dans ce processus d'extériorisation, le risque.
Постоянно вот в этом процессе проекции вовне существует опасность, риск.
Le risque de ce qu'il appelle l'aliénation.
Aliénation или отчуждение. Отчуждение.
D'accord. Donc il a ces deux termes qui sont Entäußerung d'un côté et Entfremdung de l'autre.
Отчуждение.
Et donc ce qui semblait être au départ, du point de vue de l'esclave, un processus d'aliénation, puisque l'esclave.
То, что и в начале, с точки зрения раба,
la conscience,
казалось процессом отчуждения.
La conscience de l'esclave avait précisément renoncé à sa liberté.
Потому что сознание раба отказалось от собственной свободы.
S'avère
au bout. Отчуждение произошло с точки зрения этого самосознания.
S'avère au bout du compte être un rapport.
А в конечном счете оказывается, что это.
Plus libre au monde.
На самом деле, отношение большей свободы в отношении окружающего мира,
que celui de la conscience souveraine.
У самосознания господина.
Donc, ce que fait l'esclave par son travail, c'est précisément
то, что своим трудом добивается
transformer le monde en réalité humaine.
Добивается раб. Он преобразует мир, так сказать, адаптируя его к человеческой реальности.
Ce qui lui permet de se reconnaître dans le monde.
Что позволяет ему, так сказать, узнать себя или признать, получить самопризнание в мире.
Vous vous souvenez que le désir, au départ, on l'a défini précisément comme ce désir de transcender l'être brut, l'être naturel.
Мы сначала сказали, что основа желания – это выйти за рамки чисто, так сказать, биологического, природного человека.
C'est le désir de s'élever au-delà.
Желание подняться над...
De l'être immédiat.
Над, так сказать, природным биологическим человеком выйти за рамки.
Et de se distinguer de l'ordre naturel des choses.
Выйти за рамки естественного хода вещей.
Autrement dit, le désir est fondamentalement un désir de liberté.
Поэтому, в общем-то, это стремление, это желание свободы, прежде всего.
Et comment est-ce qu'Hegel définit la liberté?
А как Гегель трактует, как он определяет свободу?
Comme la capacité, il la définit comme la capacité à être chez soi, dans son autre.
Это возможность быть у себя в другом.
Et c'est de ce point de vue que la liberté véritable, la liberté authentique,
поэтому подлинная, настоящая свобода,
n'est pas celle qui est le fruit de cette capacité à renoncer à la vie, à sacrifier la vie, qui
это
est le point de vue du
maître. Способность отказаться от жизни, пожертвовать собой.
Autrement dit, la véritable liberté n'est pas la liberté souveraine, la liberté aristocratique.
То есть это не суверенная, не аристократическая свобода.
Скажем. Mais la véritable liberté, c'est la liberté du labeur, c'est la liberté du travail.
Свобода – это свобода, которая заключается в труде.
Et c'est une liberté qui se gagne très progressivement.
И вот эта свобода, она достигается очень постепенно.
C'est une liberté qui suppose une certaine temporalité, qui est la temporalité de la médiation, par opposition.
Для этого нужно определенное время, определенное сочетание определенных факторов.
Par opposition à la temporalité immédiate de la conscience souveraine.
В отличие от, так сказать, непосредственного, от отсутствия этой временной маржи, когда речь идет о сознание господина.
Voyez donc comment on peut très facilement, à partir de là, poser que la véritable liberté, c'est la liberté du travailleur,
вот
et pas la liberté...
Поэтому из этого легко сделать вывод, что подлинная свобода – это свобода трудящегося человека.
Et pas la liberté du Seigneur.
А не свобода, так сказать, господина.
Et,
как?
Каждому свою.
Едем до Зайна. Едем до Зайна.
Donc de ce point de vue, la liberté est aussi,
поэтому свобода,
c'est ce que dit Кожев,
как la говорит source, Кожевников, является...
Oui, là il va très vite en quelque sorte, il dit la liberté entendue de ce point de vue,
et с этой точки зрения, свобода,
la source de tout progrès humain,
является источником любого человеческого движения, любого прогресса человеческого,
qu'il soit social ou historique.
Будь то в социальном или историческом плане.
Et il écrit l'histoire,
и он пишет дальше, что история
et l'histoire de l'esclave travailleur.
Эта история создается трудящимся рабом.
Voyez, donc c'est à ce moment-là que la dialectique s'est inversée, si vous voulez. On est
à диалектика, à l'opposé. Она как бы переменил, знак диалектический переменился.
Donc c'est le moment où l'esclave affirme, en quelque sorte, son désir.
В этом случае раб утверждает свое желание,
comme un désir supérieur à celui du maître,
которое, так сказать, он полагает желанием более высокого уровня, чем желание господина.
Et l'oisiveté du maître,
и, так сказать, тот факт, что хозяин ведет праздную жизнь,
s'avère au bout du compte être la fin et le point culminant de son propre désir.
Возможно, в этом заключается, так сказать, кульминация его собственного желания.
Et donc le moment de sa propre décadence.
И это начало его собственного падения, его, так сказать, его распада как личности.
Alors, il y a une illustration merveilleuse de ce moment-là, si vous voulez, je
вот
ne sais pas si
vous... Замечательная иллюстрация. Comme chez Abloumov, personnage russe, le type qui reste couché sur le canapé n'a rien faire, se tourne, incarnation de la paresse.
Exactement, donc j'avais, il y a à Blumhoff tout à fait.
De l'oisiveté.
Mais j'avais en tête, j'allais mentionner ce film que vous connaissez peut-être.
Vous знаете, вот, кстати, вот тут мне подсказывают, что воплощение этому является Обломов, известный персонаж Гончарова, русского писателя.
Non, oui, j'avais en tête ce film de Joseph Losey, qui s'appelle The Servant, le serviteur.
Et un film de Joseph Losey, c'est Rap.
Qui est un film extraordinaire et une merveilleuse illustration du propos de Kojève et de la
réflexion dialectique.
Et qui commence par un plan en contre-plongée.
Et ici, как раз. Если вы помните, фильм начинается с наплыва.
Du point de vue du serviteur, justement.
Точка зрения раба, точка зрения слуги.
Qui toise le maître.
Который смотрит снизу вверх на господина.
Qui est effondré dans un fauteuil.
Который развалился при этом в кресле.
Et dont la vie est en train de se déliter, de se défaire entièrement.
И жизнь которого полностью на самом деле, так сказать, разлагается, жизнь которого полностью, так сказать,
et tout le film est en quelque sorte le
разлетается в дребезги.
Le déroulement de ce processus de pourrissement de la vie.
И вот весь фильм, собственно, посвящен процессу разложения вот этой жизни господина.
Voilà, donc, donc ce qu'il faut souligner, c'est que à terme, la transformation.
Что я имею в виду? Нужно подчеркнуть, что со временем трансформация, преобразование.
Le travail dialectique, si vous voulez.
Диалектическая работа.
De dépassement de la nature.
Так сказать, выход за пределы природного мира.
À travers ce processus, l'esclave se transforme lui-même.
Вот за счет этого процесса раб преобразует сам себя, в конечном счете.
Le maître, lui, avait une alternative très claire.
У хозяина, у господина была совершенно четкая альтернатива.
Soit il était victorieux,
он победит,
soit il mourait.
Либо умрет.
Il était prêt à mourir,
он был готов пожертвовать жизнью, готов умереть,
mais il n'était pas prêt à changer.
Но он был не готов измениться.
Il n'était prêt à changer ni lui-même, ni à changer le monde.
Он был не готов измениться сам, он был не готов изменить окружающий мир.
Потому что он не был вообще реформистом.
То есть он по натуре он далеко не был реформистом.
Autrement dit, alors que le maître était pris, englué, si vous voulez, dans sa propre maîtrise, dans sa propre souveraineté.
И в то время как господин завяз в своей собственном понимании независимости.
Alors qu'il ne pouvait pas se dépasser, il ne pouvait pas.
Он не мог выйти за рамки, за пределы собственной природы.
Il ne pouvait pas changer.
Он не мог измениться.
Il ne pouvait pas faire de progrès.
Не мог, так сказать, развиваться, идти вперед.
Alors que donc le maître était pris dans cette situation-là.
В это же самое время.
L'esclave, lui, est au bout du compte une figure beaucoup plus, pourrait-on dire, plastique.
В то же самое время раб является, если так можно сказать, гораздо более классической фигурой.
En ce sens qu'il n'y a en lui rien de fixe.
Потому что у него нет ничего запрограммированного заранее, имманентного, так сказать, незыблемого.
Et Kojève dit qu'il est, dans son être même, changement, трансценденс, трансформация.
Он сам по себе является символом, воплощением преобразования, развития и так далее.
Education.
Обучение.
Donc, depuis le départ, dans son essence même.
Изначально, по своей природе.
Et donc, dans son existence.
По модели своего существования.
L'esclave est
раб,
historique.
Является историческим персонажем.
Il est une incarnation de l'histoire.
Он как бы воплощает, замыкает на себе историю.
Oui, donc, de ce point de vue, la temporalité de la conscience assujettie.
Поэтому временной пласт подчиненного самосознания
est radicalement différent de celle du maître.
Отличается кардинальнейшим образом от подобного же пласта господина.
Le maître qui est dans une pure répétition du présent, dans une pure répétition d'un présent immédiat.
Потому что на самом деле господин живет в неком двумерном плоском мире. Его его мир, он как бы постоянно повторяется. Постоянно повторяется. Он живет в настоящем.
Il est la forme de l'identité dans laquelle il n'y a aucune place pour la différence.
Он форма некой идентичности, в котором отсутствует, различие. Он не меняется. Он воплощение постоянства.
À l'inverse,
et наоборот,
la conscience de l'esclave,
сознание или самосознание раба,
est-elle prise dans une temporalité du devenir, on pourrait dire, pas de l'être,
mais du devenir. Нечто не застывшее, не неподвижное, а нечто развивающееся.
Une relation qui est véritable relation entre elle-même en tant que conscience de soi et son autre qui est le monde extérieur,
которая находится в постоянной связи между самосознанием и окружающим миром.
Autrement, au bout du compte, donc, Hegel et
в конечном счете, Гегель и Кожевников
soulignent ou découvrent une liberté supérieure à la liberté du maître, la liberté absolue.
Обнаруживают именно в самосознании раба высшую степень
qui est la
свободы,
qui
чем в самосознании господина.
Par la négation, c'est-à-dire par le travail.
За счет именно процесса труда, который осуществляет самосознание раба.
Donc on voit bien qu'il y a chez Hegel, et c'est un trait que Kojève accentue très délibérément.
Поэтому мы видим, что у Гегеля
une glorification, une valorisation et une glorification peut-être du travail par rapport à l'oisiveté.
Присутствует, и так сказать, Кожевников это подчеркивает в своих лекциях, присутствует восхваление труда и противопоставление труда, так сказать, собственно, сибаристству и отсутствию деятельности.
Alors, ce qui est intéressant par rapport au récit de la Genèse, c'est que on voit chez Hegel une réhabilitation du travail.
И вот в отличие от Библии, когда, так сказать, Адам и Ева были прокляты, изгнаны из рая, и труд был проклятием, у Гегеля, наоборот, труд является тем, что возвышает.
Le travail n'est plus présenté et plus vécu seulement comme une punition.
Труд не является наказанием.
Mais il est présenté comme ce détour nécessaire.
А является необходимым, так сказать, движением.
Afin d'acquérir une nouvelle liberté.
На пути к приобретению новой свободы.
Et donc une forme de satisfaction.
То есть это форма удовлетворения на самом деле.
Au-delà de ce qu'on pourrait appeler avec Freud le pur principe de plaisir, la pure jouissance du maître.
Которая выходит за рамки, так сказать, чистого обладания, чистого, так сказать, чистого получения удовольствия, что характерно для господина.
Donc plutôt que de s'abrutir dans le plaisir, comme le dit Kojève.
То есть вместо того, чтобы потерять себя в удовлетворении собственных желаний,
l'esclave,
раб,
atteint une forme de satisfaction,
достигает определенной формы удовлетворения,
qui est à la fois supérieure et plus durable.
То есть более высокой и более, так сказать, продолжительной, чем то, чего достигает другими методами господин.
Alors je voudrais pour finir très vite, justement, j'ai commencé à introduire des termes freudiens et de montrer comment est-ce qu'il y a un croisement possible entre la pensée hegelienne et la pensée
чтобы показать вам, freudienne. Что существует определенная связь между гегелевской философией и философией Фрейда.
Afin d'illustrer ce propos, je voudrais juste souligner
для этого я бы хотел подчеркнуть следующее.
Un certain nombre de termes qu'utilise Hegel
некоторые термины, которые использует Гегель,
et qui annoncent de façon assez remarquable ce que Freud dira quelques temps plus tard.
И который очень хорошо иллюстрирует то, что потом будет, так сказать, сказано Фрейдом.
S'agissant du travail, par exemple,
например, труд, работа.
Hegel dit qu'il s'agit du désir refoulé.
Значит, Гегель говорит, что речь идет о вытесненном желании.
Le travail, c'est le désir refoulé.
Труд, работа – это вытесненное желание.
Le terme qu'il utilise.
Это тот термин, который он использует.
Et le terme «gehemmte Begierde».
«Gehemmte Begierde» по-немецки.
Le travail est donc, au bout du compte, la vérité du désir.
То есть работа, труд – это истинность желания. Et вот pas, что-то в конечном счете.
Et pas son opposé.
А не противоположность.
Donc, il n'est pas la négation de la satisfaction en tant que
telle. Он не является отрицанием удовлетворения как такового.
Mais il est la négation de cette forme spécifique de satisfaction qu'est la jouissance.
Но является отрицанием специфичной формы удовлетворения, которая является обладанием.
Qui est la prérogative du maître.
А это уже прерогатива, так сказать, господина.
C'est précisément par
Et именно
la transformation de la jouissance
transformируя, преобразуя обладание в признание,
la remise à plus tard, en quelque sorte, de la jouissance elle-même,
откладывая процесс удовлетворения,
on pourrait dire la relève au sens hegelien de l'aufhebung, alors comment ça...
la relève de la changement, la...
La relève, c'est le, qui est à la fois suppression et en même temps rétention, qui est un dépassement et une négation à la fois, c'est ce fameux terme.
Преодоление. Откладывание. Откладывание на потом и одновременно преодоление. Вот что это такое.
Voilà, c'est un terme évidemment très proche de celui que Freud utilisera quand il parlera de sublimation.
Это достаточно близкий термин к тому, который использует Фрейд в своих произведениях.
Alors évidemment, le terme que Freud utilise et qui est traduit par le terme de refoulement, c'est...
Вытеснение, вот, термин, который по-русски переводится refoulement, как вытеснение...
C'est le terme de Verdrängung en allemand.
Drängung.
Verdrängung.
Verdrängung, по-немецки, mm. этот термин звучит.
Mais le terme de Hemmung...
Non, termin Hemmung...
Qui est le terme qu'utilise Hegel, est un terme qu'on retrouve aussi chez Freud.
Это тот термин, который использует Гегель. Вот этот термин также употребляется и Фрейд.
Par exemple, il y a un article tardif de 1926.
Например, в статье, довольно поздней статье за 26 год.
En allemand, qui s'appelle, enfin, je le traduis en français, qui s'appelle inhibition. Et le terme de inhibition, c'est le terme allemand de Hemmung, justement.
Hemmung, это запрет или ингибиция.
Inhibition, symptôme et angoisse.
Ингибиция, симптомы и страх. Симптом страха, в частности.
Voilà. Alors, il faudrait, parce qu'il faut quand même du temps un peu pour la discussion, donc je voudrais m'arrêter là.
Я остановлюсь, поэтому, потому что нужно оставить какое-то время.
Je prendrai la semaine prochaine cette transition de façon un peu plus nourrie, un peu plus fouillée.
На следующей неделе мы более подробно это рассмотрим.
Mais je propose qu'on s'arrête ici. Je dis simplement trois mots de conclusion.
Хотелось бы буквально несколько слов в заключение сказать.
Afin de souligner ceci, que le désir survit,
желание,
au bout du compte, dans cette dialectique,
в этой диалектике,
du maître et de l'esclave,
выживает,
à la seule condition,
но при единственном условии.
Qu'il parvienne à se dépasser, à se transformer.
Если оно трансформируется,
peut-être à se sublimer.
Сублимируется, возможно.
Par le travail et par l'histoire.
За счет труда и за счет, так сказать, исторической эволюции, развития.
Voilà, je vais m'arrêter là.
Так. Я закончил.
Мы выслушали очень интересную лекцию, касающуюся интерпретации, наверное, одного из ключевых моментов гегелевской феноменологии духа, диалектика раба и господина. Да, эта тема очень интересная, тема очень богатая, и тема, которая имеет большую историю и в 19-м, и в 20-м веке, в философии 19-го, 20-го века. Вот мы послушали сегодня интерпретацию этой темы у Кожева. И, пожалуйста, я предлагаю вам задать вопросы профессору Дубестиги, если такие вопросы имеются. Пожалуйста. Да, пожалуйста, Артур.
К сожалению, не
работает.
Да. Замечательно. Большое спасибо, уважаемый профессор, за интересную лекцию. У меня такой вопрос по поводу господина. Получается так, что в истории может существовать только один господин. Такой, как Наполеон, допустим, у Гегеля, или же Сталин у...
Не спешите. Хорошо. Comme Napoléon chez Hegel ou comme Staline. Mm-hmm.
Соответственно, история не терпит двух господинов.
История не терпит?
Да.
Donc,
и более.
Ne peut pas tolérer deux souverains, deux maîtres.
Это становится для нее
невозможным.
Это становится для нее невозможным. Правильно я понял?
Это impossible. И что в чем вопрос заключается?
Так ли это?
Mm-hmm. C'est comme ça?
Alors, il faut savoir à qui cette question s'adresse, parce que. Si elle s'adressait à Hegel, je crois que sa réponse serait non. Que d'abord, ce qui est décrit dans la phénoménologie de l'esprit, contrairement à ce que prétend Kojève, n'est pas une description de l'histoire elle-même.
Значит, если этот вопрос касается Гегеля, то то, что он написал в своей «Феноменологии духа», не касается описания исторического бытия, скажем так.
Donc, ce que Hegel appelle une science de l'expérience de la conscience est très différent d'une philosophie de l'histoire.
Потому что то, что Гегель называет, так сказать, экспериментом познания сознания, отличается от исторического бытия.
Mais ce que fait Kojève, c'est lui faire converger les deux, en quelque sorte.
Но Кожевников, он как бы слил эти два подхода, эти две концепции.
Donc, il lit la phénoménologie de l'esprit comme si c'était...
Прочитывает феноменологию духа, как если бы это было...
Une philosophie de l'histoire décrivant des moments et des situations.
Философия истории, описывающая определенные моменты, определенные ситуации исторические.
Précise de l'histoire, ce qui est particulièrement problématique à ce stade peu avancé de la phénoménologie de l'esprit.
Которые были весьма проблематичны вот на той стадии, в то время, когда писалась вот эта книга.
Alors, si la question s'adressait à moi, plutôt que...
Если ваш вопрос относится ко мне...
Alors, la réponse serait encore différente.
то ответ был бы еще другим совсем.
Ce que je veux dire, moi, ça n'intéresse pas.
То меня, в принципе, это не интересует. D'autres questions?
У меня вопрос лично к вам.
Кому?
Профессор Бестиги.
А.
Сейчас я озвучу вопрос. Считаете ли вы, что философия вечная раба религии?
Pensez-vous que la philosophie soit l'esclave éternel de la religion? Et que la philosophie ne sera jamais le maître de la religion? Parce qu'il y a déjà un maître, forcément. La psychologie, par ailleurs. La psychologie, c'est pareil, c'est le même, la même relation avec la religion. Jamais la psychologie ne sera la maîtresse de la religion. Voilà.
Alors. Merci. C'est curieux que vous vouliez établir cette hiérarchie entre les différentes...
несколько странно, что вы хотите вот эту иерархию.
Entre les différentes disciplines.
Между различными дисциплинами, да? Подождите. C'est très important.
Au moins pour la raison suivante, qui est que la philosophie elle-même et Hegel en particulier.
Дело в том, что сама философия и вот
a beaucoup essayé de renverser cet ordre. Parce que quand on arrive au savoir absolu, au domaine de l'esprit, pour Hegel, l'expression pure de la vérité sous sa forme véritable,
чистая истина.
Ça n'est ni l'art, ni la religion.
Это не искусство, не религия.
Mais c'est la philosophie.
Это философия. Для него философия это истина в последней инстанции.
Для вас.
Et pour vous personnellement.
Je vous remercie. Pour moi personnellement.
Для меня лично.
C'est toute la difficulté aujourd'hui de la philosophie.
Это самая главная проблема, на мой взгляд, которая сейчас стоит, самая большая сложность,
которая стоит
перед философией.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, pour ce qui est de cette question précise, remonter à un ensemble de textes de la tradition judéo-chrétienne.
Et именно поэтому я хотел вернуться к источнику.
Pour montrer
иудейско-христианским текстам.
Pour montrer à quel point la pensée contemporaine, même parfois,
для того, чтобы вот сделав этот экскурс в историю,
même parfois,
выйти на современную уже
la plus
концепцию
officiellement athée,
vous n'êtes pas fait
officiellement athée, même parfois la plus officiellement athée,
значит, я вообще-то, так сказать, по своим убеждениям атеист,
reste tributaire de schémas qui sont des schémas.
И тем не менее, даже я осознаю,
religieux et théologique.
Что я нахожусь частично в плену определенных религиозных и теологических схем.
Autrement dit, pour moi,
иначе, другими словами,
toute la question de la philosophie aujourd'hui pour moi,
сейчас, на мой взгляд, весь вопрос главной философии заключается в том,
consiste à penser sans théologie, c'est-à-dire.
То есть заключается в том, чтобы философская идея развивалась без оглядки на теологию.
Sans recours aucun à la transcendance.
Без всякой, так сказать, использования трансценденции, без связи с божественным, с Богом.
Donc le défi,
вызов,
que doit relever la philosophie,
который стоит перед философией,
est celui que Gilles Deleuze articule quand il dit que la philosophie existe sur Gilles Deleuze, sur uniquement sur un plan d'immanence.
Это то, о чем говорит Жиль Делез, когда он говорит, что вся философия должна строиться на имманентном подходе.
Et pour lui, le plus grand penseur de l'immanence.
И для него великий мыслитель, который как раз исповедовал
имманентный подход. Celui qui a su déployer une philosophie sans recours aucun aux religieux.
Человек, который смог развить, построить свою философскую систему не
on pourrait dire,
без оглядки на религию, на Бога,
sans recours aucun à l'ontothéologie.
Без оглядки на онтотеологию.
C'est même s'il utilise beaucoup le mot de Dieu, c'est Spinoza.
C'est qui?
Spinoza.
Spinoza. Это Спиноза, хотя в его сочинениях слово «Бог» встречается неоднократно.
Donc, pour répondre à votre question, oui, je crois que c'est possible, mais c'est difficile.
Отвечая на ваш вопрос, считаю, что это возможно, но сложно.
Спасибо. Еще вопросы есть?
D'autres questions?
Пожалуйста.
Qui décide qui est esclave, qui est maître. Et est-ce que l'homme peut à un moment donné être à la fois esclave et maître?
À la fois.
Non, alternativement, à un moment donné, il peut être esclave, à un autre moment, il peut être maître.
D'une certaine façon, c'est ce qu'essaie de montrer la dialectique.
Это и является, собственно, диалектикой.
Par ce renversement, puisque celle
потому
qui,
что человек может полностью поменять свою позицию.
Qui
да?
avait l'apparence
сегодня
de la maîtrise,
такой, произошло диалектическое изменение, завтра он стал другим.
D'une certaine façon, la conscience du maître est celle qui est prisonnière
самосознание господина,
de sa propre jouissance, de sa propre immédiateté.
Она питается собственным, так сказать, собственно, удовлетворением собственного желания.
De son absence de reconnaissance.
Требованием признания.
Et à l'inverse, la conscience de l'esclave est celle qui s'avère être conscience
qui
au bout du compte s'avère être conscience véritablement libre.
Свободное на самом деле самосознание, это самосознание раба. Вот в конечном счете получается так.
Donc,
с одной стороны, иммобилизм и, так сказать, сибаристство и замкнутость в себе, с другой стороны, экстравертность, выход на мир, преобразование и, в общем-то, вот так. Donc, si vous voulez, c'est la dualité de l'homme lui-même. ces deux choses-là. Ça existe, ça peut coexister dans un seul et même homme.
Oui, alors ce qui serait difficile, ça serait de réduire encore une fois tout ce que dit Hegel de la conscience et de la conscience de soi, vous et tout ce qu'il va en dire par la suite, à ce seul moment très précis qu'est la dialectique du maître et de l'esclave.
Voilà. А очень трудно свести все, что говорит Гегель, вот к диалектике господина и раба.
Mais la réponse proprement hegelienne dialectique à votre question, c'est que pour Hegel, ce qui est nié n'est jamais
ce qui est
nié.
Nié.
Ce qui fait l'objet d'une négation.
То, что отрицается, то, что, так сказать, отрицается.
N'est jamais anéanti, nié, exclu complètement. Il y a toujours quelque chose.
Не всегда отрицать, то есть никогда не отрицается полностью.
Il y a toujours
всегда что-то остается.
Il y a toujours quelque chose de ce qui est nié, qui est retenu. Voilà.
То есть из того, что отрицается, что-то берется на самом деле для себя.
Donc évidemment, pour répondre à votre question, il faudrait se mettre à penser de façon Hegel appelle proprement spéculative.
Поэтому нужно научиться думать спекулятивно, то, о чем, так сказать, говорил.
Renoncer à voir les problèmes d'un point de vue unique, mais de parvenir.
То есть отказаться от рассмотрения проблемы, так сказать, с одной только точки зрения, с одного угла зрения. А предположим, такая ситуация, когда... Предположим, что хозяин настолько силен, что он может лишить раба возможности работать. Что тогда?
Alors, on pourrait croire qu'il s'agit d'un souverain ou d'un maître masochiste, parce que...
Ну, скорее всего, это мазохист какой-то, да?
Alors... Ça, on pourrait peut-être en parler en rapport avec Freud, plus,
et Lacan. Je
crois pas qu'il y ait de place. Enfin, ça serait intéressant, parce que le masochiste, ou Sartre d'ailleurs, mais enfin, le masochiste pour Freud... C'est celui qui témoigne d'une... pulsion, donc d'un désir particulier.
Это человек, который испытывает определенное желание, особого рода желание.
Qui est un désir destructeur, autodestructeur.
Разрушительное, саморазрушительное желание.
Qui est, comme il le dit lui-même, au-delà du principe de plaisir.
И это уже выходит за рамки простого, так сказать, получения удовольствия.
Or, la façon dont Hegel, en tous les cas, présente le maître, c'est...
То, как Гегель трактует господина.
Comme celui qui... Ayant fait face à la mort,
это как некая сущность, некое существо, которое, столкнувшись со смертью,
se complaît, en quelque sorte, se complaire, oui, dans le pur plaisir, dans la pure jouissance. Donc il n'est...
Высшим удовольствием, которое является вот именно созерцание смерти, или вот это вот ощущение близкой смерти, скажем, для него это является объектом удовольствия.
Alors on pourrait même dire que s'il était encore plus pervers, il serait sadique et pas masochiste, parce que il aurait compris d'avance que l'esclave a entre les mains l'outil de sa propre liberté, dont il veut au bout du compte.
С точки зрения господина, который понял, что, ага, оказывается, у раба есть в руках инструмент, который позволяет ему добиться свободы.
Donc il voudrait au bout du compte le priver absolument.
Ему хотелось лишить его этой возможности абсолютно и окончательно.
Mais là on est effectivement dans la psychanalyse et plus dans,
но
et
это
plus
dans la phénoménologie. Это уже психоанализ. D'autres questions. Voilà, ce petit détour historique que vous avez fait, ne vous fait-il pas penser que... Que le travail, il y a les différentes sortes de travail. Il y a le travail d'esclave et il y a le travail créateur, la création.
Et другой вопрос. Как вы думаете, не связана ли свобода с возможностью
Et ne pensez-vous pas que la liberté soit liée à la possibilité de choix? Et comme l'esclave est privé de cette possibilité de choix.
Oui, oui, oui.
Donc la liberté de l'esclave est caduque.
Oui, ah oui, d'accord. Oui, c'est pour ça que traduire par esclave déjà est un problème. C'est la traduction de Cogère à proprement parler. Il faudrait mieux traduire par serviteur, qui a un rapport.
Vous savez, поэтому в общем-то на самом деле эта проблема во многом перевода, потому что раб не очень хорошо подходит, отражает то, о чем говорит Кожевников. Это скорее слуга, подчиненный.
Mais
подчиненный, слуга.
Dans l'ensemble, je suis absolument d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il faudrait distinguer, et c'est ce que fait Marx après Hegel. Voilà, donc la critique de Marx vis-à-vis d'Hegel, c'est que d'une certaine façon, la notion de travail.
Non, на самом деле, я с вами полностью согласен, потому что в своей критике Гегеля Marx как раз вводит понятие труда.
Elle est beaucoup trop globale, elle ne prend pas en compte la spécificité d'un système, d'une organisation socio-économique bien particulière.
И часто он обвиняет Гегеля в том, что он не учитывает особенности социально-политической, экономической системы,
donc on pourrait dire,
которой, так сказать, действует человек.
Le travail aliéné, c'est
отчужденный труд.
C'est le travail du prolétaire. Voilà, donc il y a
труд пролетария.
L'activité.
Он отчуждается капиталистом. С точки зрения Маркса.
L'activité du prolétaire est celle qui ne se traduit pas par ce moment de reconnaissance.
И поэтому труд пролетария, он не является предметом признания.
Et donc par cette liberté. Voilà.
И поэтому не приводит к свободе.
À l'inverse,
потому что нет акта признания.
À l'inverse, ou peut-être à l'autre bout de l'éventail.
И на другом конце противоположно.
Vous avez fait allusion au travail proprement créatif, donc on pourrait penser au travail artistique. Effectivement,
вы
comme...
говорили, ввели понятие художественный труд, художественная деятельность. Да, d'après Marx, c'est le travail universel.
Oui, oui.
Художественный, творческий труд, да. Et le choix, le problème du choix.
Le problème du choix, est-ce que... oui, c'est. Je veux dire,
est-ce que la liberté peut être imaginée sans possibilité de choisir?
Alors ça me paraît être une question extrêmement pertinente, et j'aurais tendance.
Vous savez, c'est un очень, как бы, своевременный вопрос.
J'aurais tendance à dire non.
А вот первая мысль, первое желание, мне было сказать нет.
Dans le même temps, j'aurais tendance à dire qu'il y a aujourd'hui, dans une certaine forme de société capitaliste, une réduction absolue de la liberté au choix.
В настоящий момент существует некая форма капиталистического общества, когда идет отрицание выбора, свободного выбора.
Il y a une multiplication, une déclinaison d'un ensemble de produits qui sont souvent à peu près les mêmes.
Огромное количество, консюмеризм, огромное количество изделий, товаров, часто совершенно одинаковых.
Avec derrière, je crois, l'illusion du choix.
И у нас часто просто, когда мы что-то покупаем, у нас создается иллюзия выбора.
Donc je crois qu'il faudrait définir le choix assez précisément.
Поэтому вот сам термин «выбор» нужно очень четко определить.
D'une certaine façon, on a peut-être jamais eu autant le choix qu'aujourd'hui.
С одной стороны, у нас никогда не было таких возможностей выбора, как сейчас.
Et en même temps aussi, parfois aussi peu le choix.
И так мало возможностей, то есть это на самом деле такое диалектическое противоречие, так много и так мало возможностей. Красная должна загореться. Вот сейчас.
А, горит, да. Не видно. Ну, из вашего доклада стало понятно, по Гегелю мы здесь на Востоке намного свободнее, чем вы там на Западе.
D'après Hegel, nous à l'Est, nous sommes beaucoup plus libres que vous là-bas à l'Ouest.
И всегда были, при том.
Не то, что
c'est fort possible, oui.
Вполне возможно.
Ну, о выборе вы говорили как о товаре. Речь идет не как о товаре, а о выборе действия человека.
Vous avez parlé du choix comme d'un produit commercial. Mais il s'agit du choix dans le sens... Le choix fait par la conscience humaine, fait par l'homme.
Oui, mais non, j'ai bien compris. C'est pour ça que je disais qu'il fallait distinguer entre des choix différents. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la pensée libérale, je dirais même plus précisément dans la pensée néolibérale qui s'impose aujourd'hui dans un grand nombre de pays,
в неолиберальной экономической модели, которая сейчас существует,
la seule liberté qui est reconnue,
единственная признанная свобода, это,
c'est la liberté que quelqu'un comme Isaac Berlin qualifiait de liberté négative.
Это так называемая негативная свобода.
C'est précisément pas celle dont parle Hegel.
Это то, о чем говорит Гегель.
Dont on pourrait aussi dire qu'il est un penseur libéral, mais qui a une pensée positive de la liberté.
Гегель.
Oui.
А у Гегеля наоборот, так сказать, позитивный подход к свободе. Позитивный.
Pour lequel la liberté se définit précisément comme la capacité à se réaliser soi-même dans son autre. Donc il y a tout ce mouvement.
Это возможность самореализации в другом. Вот что такое свобода означает для Гегеля.
Voilà. Et qui est donc très, très différente de cette autre liberté qui me semble aujourd'hui être la seule véritablement reconnue. Reconnue de façon diffuse dans la conscience collective, mais aussi reconnue plus précisément et discutée dans cette tradition de la pensée libérale. Anglaise, disons anglo-américaine.
В этой традиции néolibérale англо-американской, скажем так.
Ну, то есть свобода выбора.
Mais après tout, c'est
желаешь это делай, нет, реализуйся в другом.
Tu peux te réaliser ailleurs. Allez, va t'épanouir ailleurs. La dernière question. Le désir du désir, c'est le mouvement en boucle, c'est le retour sur le même désir en permanence, ou c'est quoi
après,
ou bien, c'est comme disait Derrida, c'est le mouvement vers quelque chose d'autre. Ou bien ça tourne en boucle, ou bien c'est le mouvement qui conduit à quelque chose de fondamentalement différent.
Alors, je ne sais pas exactement ce que vous avez en tête quand vous posez cette question, mais j'aurais tendance à dire que, d'une certaine façon, les approches du désir que je vais présenter ici, encore la semaine prochaine...
Те подходы к желанию, которые я вам здесь излагал,
sont des approches qui mènent à... Alors, évidemment, il va falloir que je le démontre, mais qui mènent à des impasses, c'est-à-dire qui reconduisent toujours cette conception fondamentalement négative du désir. Alors, ce qu'il faut voir, c'est toutes les interprétations de cette négativité du désir, les différentes façons dont la négativité du désir peut être interprétée.
Нужно более тщательно проанализировать и разобрать вот эту вот негативную коннотацию, связанную с желанием.
Mais ce qu'on ne trouve que très rarement, c'est une conception purement positive du désir.
Но я считаю, что достаточно редко, и в этом смысле это позитивная интерпретация желания.
Et donc, afin que le désir mène à une véritable satisfaction,
для того, чтобы у нас желание могло полностью осуществиться, для того, чтобы было получено удовлетворение от выполнения желания, полное удовлетворение.
Afin que le désir ne soit pas, afin que l'objet du désir ne soit pas toujours un objet transcendant, ou, comme le dit Lacan, un objet symbolique, mais bien un objet réel.
Для того, чтобы объектом желания был не трансцендентный объект, не символ, а реальный объект.
Eh bien, il faut précisément parvenir à penser le réel.
нужно, так сказать, мыслить реальными категориями.
De façon purement immanente, et on revient à la question de tout à l'heure.
Имманентным образом, то есть постоянно присутствующим, то есть то, что характерно для вещи.
Donc, afin qu'il y ait un terme à cette dynamique du désir, afin que cette dynamique du désir ne soit pas une dynamique d'un objet ou orientée vers un objet introuvable, un objet impossible.
То есть динамика желания, желание должно быть направлено не на объект, который не существует или которого невозможно достичь, а на что-то конкретное, реальное.
Il faut repenser le monde, le réel et notre place au sein du réel.
Для этого нужно представить в голове новую картину мира.
Différemment.
Иначе подходить к миру, иначе представлять свое место в мире и так далее.
Деградация господина.
Что-что?
Да. Деградация господина, да. Изъяны самосознания которого были прекрасно изображены. Это не только, так сказать, мы видим на примере там романа «Обломов» или английского фильма «Слуга», но это фактически реальность мира.
La dégradation du maître. Ça transcende les exemples que vous citez à Oblomov ou le serviteur, ce film. C'est, nous sommes au cœur d'une réalité du monde contemporain, en fait.
Bonjour. La réalité
que vous avez écrit,
c'est que vous avez écrit un film qui est
en train de se faire. Par José Garcés dans l'insurrection des masses.
Речь идет о среднем человеке, вот этих самых массах, средних людях, то есть фактически бывших слуг.
Il s'agit de ce qu'on appelle la classe moyenne qui se porte à l'avant-scène. Ce sont les anciens serviteurs, en fait.
Однако вопрос вот в чем. Значит, наша современная эпоха, она характеризуется все-таки неким снижением культурного уровня.
L'époque contemporaine, il y a la dégradation de la culture, en général.
Не является ли вот это вот вымывание аристократического элемента из общества и из культуры?
Et ne pensez-vous pas que la disparition de cet élément aristocratique conduit à rabaisser la culture, le niveau de culture général.
Фактором культурной деградации, потому что если мы пойдем, например, в Лувр или в...
Et c'est l'oblitération de la culture. Parce que si on va dans un musée, au Louvre, par exemple...
Потому что мы видим, что великие сокровища мировой культуры, а также духовной культуры...
À la découverte des trésors de la culture mondiale, par exemple.
Они были созданы по заказу Господа.
Après tout, ces trésors ont été faits à la demande des seigneurs, des maîtres. Donc il y a une relation entre la culture et le maître.
Il y a peut-être une
coopération entre le maître et l'esclave, une sorte de coopération.
Oui, alors, là j'ai l'impression qu'on est parti dans une autre discussion.
Ça Vous savez, en fait, nous вышли за рамки нашей дискуссии, нашей тематики.
Parce que votre propos est plus spécifiquement historique.
Потому что вы это скорее исторический экскурс. Mais то, что вы предлагаете.
Ce que je voudrais dire en réponse très très brève, c'est
non,
que
вкратце, буквально,
la raison pour laquelle j'ai insisté sur cette notion de souveraineté plutôt que de maîtrise, parce que la notion de souveraineté.
Почему я настаивал вот на этом слове суверенитет или независимость?
C'est parce que si on n'avait pas deux semaines, mais si on avait six ou huit semaines.
Потому что если бы у нас вот этот вот цикл лекций длился не две недели, а, скажем, шесть или восемь.
C'est à cette notion-là que je reviendrai.
Я бы обязательно к этому понятию еще вернулся.
En posant la question de la subjectivité.
А поставив вопрос о том, что такое субъективное, что такое comme, субъективность,
comme souveraineté, comme, en tant que souveraineté, précisément.
В качестве суверенитета или независимости.
De ce que cette subjectivité souveraine suppose.
И что предполагает, какой смысл несет в себя вот эта суверенная субъективность, независимость?
D'un côté, de technique ou, comme le dirait Foucault, de technologie de soi.
С точки зрения самосознания или технологии, которые способствуют самосознанию.
Mais d'un autre côté, de l'invention d'un autre mode de fonctionnement socio-économique.
И с другой стороны, по сравнению с другим способом социально-экономического существования общества,
qui donnerait une plus grande place,
в котором большее место занимает,
à ce que, là, ça serait une autre voie possible, à ce que Bataille, Georges Bataille, appelle,
это то, что Жорж Батай называет,
l'économie du sacrifice,
а экономика пожертвования,
ou le luxe.
Или экономика роскоши.
Et ce qui est intéressant, donc ça c'est une, je crois tout de même une réponse à votre question, c'est que dans l'œuvre de Bataille, on voit
в произведении Батая,
la volonté de penser au-delà, ce qu'il appelle au-delà du principe d'utilité, au-delà de l'utile.
Желание выйти за рамки того, что есть, что приносит пользу непосредственно того, что функционально,
et de se pencher sur des périodes de l'histoire,
и при этом рассматриваются определенные периоды истории,
et des civilisations,
и определенная, так сказать, цивилизация,
dans le fond non capitaliste,
не капиталистической формации еще до капиталистической,
et dans lesquelles on produisait,
а в которых люди
avant tout afin de sacrifier,
а производили для того, чтобы потом вот все это, как бы, так сказать, потребить и принести в жертву.
Le sacrifice a évidemment une dimension religieuse.
Естественно, принесение в жертву имеет религиозную сторону, обрядовость.
Mais dans la perspective de Bataille,
но с точки зрения Батая,
une certaine érotique, par exemple,
также существует и определенный элемент эротики.
Mais aussi l'art, ce que vous appelez la culture, la littérature.
Но, кроме всего прочего, это и связано с искусством, с литературой.
Participe de cette activité sacrificielle.
Которая тоже участвует вот в этой деятельности, обязательно присутствует элемент культуры.
Donc tout ça pour dire que je crois qu'il peut y avoir de la culture,
поэтому я думаю, что культура это
необходимо, sans qu'il y ait des seigneurs et des serviteurs.
On peut se passer de cette division. То есть культура может быть на самом деле без господ и без рабов.
En tout cas, c'est ce qu'il faudrait inventer aujourd'hui, parce qu'on va pas dire qu'on va retourner à, même si c'est le cas, qu'on va pas retourner à cette époque où il y avait.
Естественно, мы не можем вернуться в первобытное общество или, так сказать,
des seigneurs et des serviteurs.
Формацию, но в принципе без господ и без работ, без рабов культуру вполне можно себе представить.
Mais donc, oui, la question de la subjectivité est une question aristocratique.
Вопрос субъективности – это на самом деле аристократический вопрос.
Спасибо большое. Я думаю, наверное, мы завершим с вопросами, потому что дадим продохнуть профессору, который два часа трудился. И у нас еще будет время на следующей неделе задать свои вопросы, потому что тема продолжается, лекции продолжаются, и я думаю, что возможность такая нам представится. От вашего имени я благодарю профессора Дебескини за очень интересную лекцию, за тот материал к размышлению, который эта лекция нам дает о действительно очень важной и очень сложной теме философии 20 века, прежде всего. Спасибо большое.
Хорошо. Как у вас?
Merci. Quel effort pour vous.
Ça va. Thank you.
Да, пожалуйста. Скажите, а где в диалектике раба и господина располагается другой? Это складывается ощущение, что рабу господин не нужен.
Où se cache l'autre? Parce qu'on a l'impression que l'esclave n'a pas besoin de maître. Pour pouvoir réaliser son désir, l'esclave
où est l'autre? Il n'a plus besoin du maître, mais sans le maître, il n'aurait pas été mis dans cette position au départ.
Но без господина он никакого не
может.
Это гегелевская диалектика. Без господина он не был в этом положении.
La tentation du départ, c'est celle précisément de la pure jouissance.
Естественно, изначально собой это полное обладание.
Ça n'est que forcé dans un autre rapport au monde.
И когда человек самосознание поставил другое отношение
к миру. Que la conscience finit par découvrir sa propre, par construire sa propre liberté.
И тогда самосознание начинает конструировать свою сущность.
Таким, значит, господин сохраняет фигуру другого, необходимого для...
Donc, le maître conserve la figure de l'autre, en quelque sorte, qui, en fin de compte, est nécessaire à l'esclave pour se réaliser.
Oui.
Да.
Насчет культуры окончания там было, что культура может быть и без господ, и без рабов.
Культура, как показывает современность, вообще может не быть.
Культура – это все.
Нет.
Это не только.
Я имею в виду. Понимаете, что?
Понимаете. Иисус Христос сказал, вы Бог. Почему? Человек творец. Он создает культуру.
Ну, понятно. Значит, не нужно это. Господам современным. Нужен раб.
Нет, просто господа современные еще царя в голове даже.
Это понятно. Неужели думаете, что они, так сказать, бессознательно что-то делают? Ничего подобного.
Бессознательно на определенном уровне.
Центр существовал. Да. Откуда импульсы нервные
были? Согласен. Вы не читали, когда вчера, 13-го, по-моему, было в блоге Кончаловска, очень интересная жизнь эту тему.
Какого?
В.
А, Кончаловска?
В этой, на самом деле. Кончаловска.
Нет, буквально оно...
В его блоге, да. Там именно вот... о сознании элиты, ну, и рабственный был там. Он вообще доказал, что у нас феодализма не было. Сейчас мы
слово элиты не вообще.
А кому? Тогда вообще у нас не только феодализм, у нас элиты не особо. Да,
вот об этом.
Premier rapport humain
c'est comme celui de Cain ou de Bel, c'est pas un rapport extraordinairement pacifique de bienvenue, d'hospitalité, c'est un rapport de jalousie. Non, Cain tue Bel, donc c'est un rapport, un rapport fratricide, un rapport agressif, destructeur, de rivalité, où l'autre n'est pas d'emblée l'ami, l'objet, justement. L'autre est un objet de désir, et dans le désir, il y a une ambivalence. Il y a aussi un aspect destructeur, un aspect agressif. Il y a une vitalité, une agressivité qui est productive. Je crois que c'est la façon dont on peut aussi le comprendre.
Peut-être, c'est aussi un
histoire
pour être peut-être un maître.
Oui.
C'est ça, parce que c'est le deux côtés
d'une... Dans une rivalité, il y a toujours asymétrie, donc on peut dire que c'est une façon de lire cette asymétrie d'une façon très radicale. Et après, on peut imaginer des étapes, en quelque sorte, plus intermédiaires et plus nuancées, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que donc, laquelle la lutte à mort est comme l'expression la plus radicale de ce rapport de rivalité qui existe entre deux consciences. Alors évidemment, la question qu'on peut aussi poser, c'est voilà, pourquoi est-ce que ce rapport, et c'est ça qui va intéresser évidemment Lacan, que l'objet de la rivalité, c'est le désir. Mais qu'est-ce que c'est ? Quel est l'objet du désir au bout du compte ? Quel est cet autre ? Est-ce que c'est l'autre personne ? Est-ce que c'est quelque chose qui... Voilà, et d'abord pour Lacan, cet objet du désir, c'est un objet proprement introuvable. C'est ce qu'il appelle peut-être un objet purement symbolique. C'est un objet que tout le monde veut, que tout le monde se discute, mais que personne n'a.
Comme l'amour.
Mais voilà, exactement. La définition de l'amour, c'est de donner ce qu'on n'a pas.
Oui,
voilà.
Ce qu'on n'a pas, oui.
C'est ça qui définit aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas.
Parce que si tu connais, qu'est-ce que c'est ? Ce que j'aime pas.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a chez Lacan, il y a ce moment de résolution, et puis un moment de résolution pas. Alors là, on peut vous dire, c'est le retour du maître, c'est la loi. C'est le retour, c'est par là. Le compère de castration et de résolution, comme on le dit, finalement, pour rendre dans l'ordre.
Et d'autres, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'effet dans le champ social, dans le social. Parce que c'est
tout
socialisme,
c'est
autre chose.
Mais comment dire, le doute qu'on peut entretenir vis-à-vis de l'égalitarisme social, c'est un doute qui serait lié à la prise en compte du désir. Je crois que c'est intéressant de voir Marx, quelqu'un qui essaie, je crois, de neutraliser cette question. Il faut prendre en compte cette dimension de rivalité, d'agressivité, de destruction.
Il existe un nom, parce que c'est l'homme qui doit changer pour tuer un bête
dans le monde. Oui, oui. Mais comme je dis, c'est la question de comment dire la solution. Elle n'est pas si loin de la solution épicurienne ou de la solution. Certains penseurs de l'Antiquité grecque ou romaine qui visaient précisément à contenir le désir, parce que le désir était la source de cette mésentente, de ce désaccord. Donc, on a voulu penser la caritas, la charité, à la place du désir. Agapé, caritas,
agapé.
Peut-être que l'amour, c'est la liberté absolue.
Mais on aimerait que ce soit. Mais pour Hegel, effectivement, le travail et l'amour sont les deux formes ultimes de reconnaissance, c'est-à-dire la façon dont on a d'être chez soi dans son autre. Voilà. Évidemment, avec l'inconscient, avec la pulsion de mort, et puis Lacan, c'était la psychanalyse. Aimer des doutes quant à cette capacité, tu vois, quand c'est un amour qui serait un pur amour, un amour non ambivalent, c'est ce que ça existe.
Ok. Sans,
Et
Non, mais c'est un livre en voix, en cours.
C'est en anglais ou
c'est une bonne question. J'avais écrit une... En fait, ça fait 4 ans suite que je fais des cours de maîtrise doctorale sur cette question-là. Donc, comme je fais tout en anglais, j'ai beaucoup de notes en anglais. Mais parfois, je me dis que j'aimerais bien écrire en français. Au bout du compte, en ce moment, je suis en train de faire un peu les deux, c'est une catastrophe. Tôt ou tard, je vais devoir choisir.
Merci. Merci de venir. C'est le plus français. Donc, le passer à la principe. C'est mardi. Il y a des gens un peu comme ça qui posent toujours des questions.
Il y a peut-être une vraie question derrière.
Parfois, il y a des gens qui posent toujours des questions chaque fois, tout le monde, juste pour poser des questions. Et triste. Parfois, tu es occupé. Parce que sinon, on va la faire comme ça. Sinon,
moi ça me dérange pas du tout les questions.
Même les questions. Bon, ça arrive. Je sais pas. Non, d'accord. Bon, donc à la prochaine.
Merci encore.
Bon,
au revoir. Je sais pas si vous
voulez. Ouais, à la prochaine. Super. Merci. Merci, au revoir. On se revoit. Après, j'ai une question que j'ai un peu de mal, c'est fatigué.
Mais je vous en prie, allez-y. Cadeau.
J'ai manqué un élément de la chaîne. Avec cet investissement de réflexion hegélienne dans la réalité humaine. Vous avez parlé de Dasein, mal traduit en français, qui fait jouer ces réalités humaines. Mais comment est-ce qu'on trouve Dasein chez Hegel? Pourquoi justement ce schéma a été tellement enraciné dans l'existence humaine?
Alors la notion de Dasein, on la trouve effectivement comme catégorie dans la doctrine de l'essence, qui est le second volume de la logique d'Hegel.
Ah, donc, d'accord, c'est pour ça.
Mais c'est pas du tout là, parce que je crois que Kojève ne connaissait pas la logique, puis personne ne la lisait à l'époque. Enfin, en tout cas, en France, même en Allemagne, on commençait seulement, je crois. Donc, c'est pas un terme. Effectivement, il y a cette notion très précise, telle qu'elle est définie dans la logique, et puis, il y a aussi. Le terme de Dasein qui est utilisé dans la phénoménologie de l'esprit pour parler simplement de l'être là de la conscience, voilà. Donc sa façon de sa facticité. Voilà. Mais afin de parler, par exemple, quand il parle d'impasse existentielle, afin d'identifier la conscience à la réalité humaine et à l'existence, il faut vraiment le détour par Heidegger. Mm-hmm.
Okay.
Enfin, je crois vraiment. Vraiment.
Wow.
Et par Kierkegaard aussi. Donc il faut cette espèce de fond existentialiste qui se mettait en place à ce moment-là en France.
Et
qui lui a permis d'effectuer ces glissements en quelque sorte. Et ces synthèses.
Parce que pour moi, ce qui m'intéresse, est-ce qu'on peut transposer ce schéma de Sylvain et l'esclave dans les rapports pas humains, quoi. Enfin, je ne sais pas moi, avec le désir, on n'a pas un désir seulement un autre sujet, mais le sujet peut être. Enfin, est-ce qu'on peut se transposer dans notre niveau pas humain?